Service après-vente de la F1.
Salut à tous et bienvenue pour ce service après-vente consacré au Grand Prix d'Allemagne. Avec 5 pilotes, 2 constructeurs et Toyota qui a fait de Cologne sa base européenne, la F1 est pour ainsi dire à domicile au Nürburgring. L'an dernier, c'était Hockenheim qui accueillait la Manche germanique et nos derniers souvenirs du Nürbur, charmant petit village de 167 habitants, remontés à 2007, course qui avait vu Alonso s'imposer dans un finish spectaculaire contre Massa. 3 semaines après avoir dominé le Grand Prix de Silverstone, les Red Bull partaient grande favorite dans le massif de l'Eifel, tandis que la réaction des Brown était attendue. Vettel, favori à domicile, allait-il réussir à faire ce que n'avait pas fait Button à Silverstone, à savoir gagner chez lui? Button allait-il priver Vettel de la victoire parmi les siens, tout comme l'Allemand l'avait fait il y a 3 semaines? Aucun doute, les hostilités sont désormais ouvertes et le championnat pourrait bien être relancé alors que le Nürbur marque la mi-saison. Le SEV reviendra donc, comme d'habitude, sur tout ce qui a fait l'actualité de ce week-end. Mais bien sûr, cela ne serait pas possible sans nos intervenants, qui, espérons-le, auront bien profité de ces 3 semaines de pause, dont quelques-unes marquées de golf, plus 10 au par pour Enzo. Bonjour Shinji, bonjour Enzo.
Salut.
Bonjour. Alors je précise à tous nos auditeurs que plus 10 sur le par, c'est bien.
Et pour info, c'était après le Grand Prix d'Allemagne, c'était pas entre l'Angleterre et l'Allemagne.
Ah ouais, c'était... Ah oh bah oui, d'accord.
C'était aujourd'hui.
On recommence.
Non, je déconne. C'est entre les deux SAV, voilà.
Ouais, voilà, c'est le principal. Ah ouais, c'est... Bien, Shinji, bien. Alors, on a décidé cette semaine, on essaye de faire les choses dans l'ordre.
Oui, c'est vrai.
Parce que la dernière fois, on avait tout fait à l'envers. Enfin, j'avais tout fait à l'envers.
Vous en êtes pas rendu compte, mais...
Oui, voilà, c'est comme quoi c'est bien monté.
Ouais, c'est vrai.
Hein, couper 3h30 d'émission, faut le faire.
Tu parles de moi?
Oh là 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 là. Il y en a qui ont besoin de vacances, hein.
Ah, pitié, non. Ah, pitié, non, non, non. Donc, on commence cette émission tout de suite avec la rubrique tant attendue de tout le monde, hein, puisqu'on a une personne qui a cherché à deviner qu'est-ce que c'était que ce chiffre que tu nous proposais. Donc, tout de suite, c'est le chiffre inutile de Shinji.
Donc, le chiffre, vous vous en souvenez, c'était 70 millions. Un chiffre à la taille de l'Allemagne, j'ai envie de dire.
Il y avait eu le nom des gens. Il y a des gens qui ont répondu.
Ah ouais, il y a Jérôme qui a répondu.
Il y a un genre.
Et donc, il avait proposé entre autres le nombre d'hectares occupés par le circuit, le montant des droits perçus par la FOM. Ça fait beaucoup quand même, 70
beaucoup,
millions
hein.
d'euros.
Je crois que c'est 20 millions en plus.
Ouais. Mais aussi, le nombre de loukoums mangés en un an par les habitants de Nürburgring. Là encore, ça aurait fait beaucoup.
Attends, ils sont 167, ça fait quand même beaucoup de loukoums par personne.
Alors, pas d'idée?
Oui, de quoi? 70 millions?
Voilà.
C'est pas très loin de la population allemande.
C'est vrai, mais donc, c'est pas en rapport à la population. Enzo? Ah,
est-ce que c'est des monétaires?
Non, ce n'est pas monétaire.
Dis-nous si on chauffe ou si on refroidit. Hein.
Ah, vous êtes bien froid.
Bien froid.
C'est lié à la F1.
Tu me connais? Bien sûr que non.
Non? Ah, ok, d'accord. Pas lié à la F1. Je sais pas, moi.
Très bien. Mes chers messieurs, connaissez-vous la Currywurst? Je répète, la Currywurst. La Currywurst est une saucisse finement coupée, déposée sur du riz et nappée d'une sauce au curry que l'on vend en casse-croûte un peu partout dans l'Allemagne. Lorsque les politiciens veulent se rendre populaires, ils s'arrêtent à un stand vendant de la saucisse au curry. Rien qu'à Berlin, on vend près de 70 millions de saucisses grillées ou bouillies par an.
Ah la vache!
Avec du ketchup ou du curry.
Vache!
Mais ce n'est pas tout! Le chanteur Herbert Grönemeyer, l'auteur Yves Thiel, a même écrit un roman, La découverte de la saucisse au curry, où il attribue l'invention de la célèbre saucisse à un mélange accidentel de ketchup et de curry, survenu dans le Hambourg de l'après-guerre, à une certaine Lena Brucker. Depuis 2006, la Currywurst possède même son musée à Berlin. Financé par des investisseurs privés, il présente l'histoire de cette spécialité née au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que des aspects nutritionnels.
Ah bon, il y en a?
Apparemment, et des détails de fabrication. Le musée soutient la thèse que la Currywurst a été conçue à Berlin en septembre 1949 par Hertha Hover, qui aurait emporté le secret du savant mélange épicé dans sa tombe.
Ah.
Et moi je dis, ouvrons le musée du jambon beurre à Paris.
Donc, on va revenir sur...
Une minute de silence, quand même.
Pour
bah, le roi de la pop.
Ah d'accord, on fait une minute, mais je la coupe au montage. Ah bah non, on a même pas besoin de la faire, je vais l'insérer au montage.
Waouh.
Mais non, hey. Puisque tu la coupes.
Mais non, mais je vais l'insérer, comme ça on ne la fait pas, on gagne du temps. Mais par contre, l'auditeur, lui, va perdre du temps, parce qu'il va devoir écouter la minute, que nous, on n'aura pas fait, mais que moi, j'aurais inséré.
Waouh, hey. C'est très subtil.
Donc, on va peut-être revenir un petit peu avant sur toutes les questions d'actualité qui nous ont animés ces trois dernières semaines.
Ouais.
Okay, ah bon, il y en a eu.
Oui, c'est vrai. Alors déjà, faut rappeler, il n'y avait pas d'essai privé, donc on s'est un petit peu rien mis sous la dent. Oh. Bernie s'est dit à un moment donné, il s'est dit bon, on se fait chier, il y a rien qui se passe en Formule 1. Bon, je vais dire que Hitler, il était efficace.
Et je vais dire une grosse connerie. comme dirait Coluche, mais vous l'avez pas connu, hein. Les gens gueulent après Hitler, mais on l'a surtout connu pendant la guerre, ce mec-là.
Donc voilà, ça c'est Bernie qui s'est confondu en excuses. Mais en plus, le plus drôle, c'est que c'est pas lui qui se prend en exemple dans la phrase, puisque celui qui compare à Hitler, c'est Mosley.
Oui.
Qui, rappelons-le, il y a un an et demi, a été pris dans un scandale où il avait fouetté une jeune fille déguisée en prisonnière juive et lui, il parlait en allemand.
Puis son père était chef du parti fasciste.
Ah bah d'ailleurs, hein, Bernie en a rajouté, hein, comme quoi effectivement Tony Blair, Gordon Brown, etc. C'était pas des bons leaders. Hein. Donc voilà. J'ai même pas envie de vous demander ce que vous en pensez.
Voilà.
Voilà, ok, d'accord. C'est quand même la preuve, encore une fois, qu'il faut virer ces mecs-là, quoi.
Oui. Surtout que Max, il est un peu comme la moule sur son rocher, hein, il s'accroche.
Donc, après Bernie, je pense qu'on reviendra sur la guerre FOTA et FIA plus tard. On peut peut-être revenir sur la grosse rumeur du week-end et la demi-info du jour, parce que certains sites...
Départ de Piquet.
Non, il y a deux trucs qui nous font chier, c'est que Bourdais va plus être en F1 et que Piquet reste pour le moment.
Non, c'est vrai, il reste.
Bah pour le moment, c'est y a rien qui dit le contraire.
Sur son Twitter, il a dit qu'il aurait le même matos qu'Alonso au prochain Grand Prix.
Donc on revient sur Bourdais.
Oui, quand même.
Ouais, quand même.
Alors c'est parti à la base du remplacement du troisième pilote Red Bull, et Toro Rosso qui était à Hartley, qui a été remplacé par Jem Alguersuari.
Vu qu'il est espagnol, ça va plutôt Rémé.
Alguersuari, ouais, Rémé, Alguersuari. Ce petit jeune qui n'a strictement pas fait grand-chose dans sa vie, quoi.
Il est champion de F3 britannique, et il est huitième de World Series by Renault.
Ok, donc voilà, hein. Il a 19 ans, il a été intégré, et direct, lui, il a dit cash. Il a dit que lui voulait viser le baquet 2010, et pensait même pouvoir conduire en 2009. Donc automatiquement, ça a lancé les rumeurs comme quoi Bourdais partirait d'ici la fin de saison. Et puis bah le prochain Grand Prix, c'était l'Allemagne. Ça a commencé à circuler comme rumeur. Ça s'est fait très insistant. Et aujourd'hui, on a, semble-t-il, la confirmation.
Alors, c'est pas très sûr. Hein.
Voilà.
On va dire qu'on est dans la rumeur, mais très, 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 très grosse.
Voilà, on est dans la rumeur. Donc, enfin, il y a des personnes au sein de Toro Rosso qui ont parlé à des personnes au sein de la presse, comme quoi ils se séparaient.
D'ici 48 heures, on devrait savoir.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce départ, des circonstances, et puis, au cas où ce serait vraiment la dernière de Bourdais, faire un petit bilan de son passage en Formule 1?
Honnêtement, bah, je pense que il a pas forcément sa place. Rien que pour le nom, je préférerais qu'il y ait un Senna qui vienne.
Mais le problème, c'est ça, c'est que Senna vient pas.
Oui, ça, c'est un autre problème. Mais, non, sincèrement, j'ai rien contre Bourdais en particulier, mais, je trouve qu'il a pas, il a rien fait de particulier, quoi, hein, quand même, hein.
Bah son grand problème, moi je pense que s'il y a une chose qui fait qu'il n'est pas fait pour la F1, en tout cas la F1 des petits, hein, parce que c'est pas un mauvais pilote, hein, il a couru chez Newman Haas en Champ Car et il a gagné 4 titres d'affilée, même si c'est à une époque où Champ Car est moins compétitif, mais je pense que c'est un pilote qui a besoin d'être en confiance et on l'a plusieurs fois vu, il se démoralise souvent, 24 heures du Mans, il s'est troubiné la tête en se disant voilà, j'ai fait une boulette, c'est de ma faute si on perd, etc. Et c'est vrai qu'il est arrivé au moment donné où il y avait Vettel, il se tape Vettel, Vettel gagne, fait gagner une équipe qui est pas destinée à gagner normalement. Et puis il arrive avec un deuxième, c'est Buemi, qui sont plutôt solides. Donc je pense que moralement ça lui a foutu un coup et qu'il a plus du tout été dans le coup. Et moi je le verrais bien dans une équipe comme Renault où on a besoin d'un pilote.
Mais c'est vrai qu'en, mais en même temps c'est vrai qu'il a jamais donné l'impression de donner confiance. À chaque fois la voiture ne marchait pas.
Oui oui non
il
mais
lui
il
allait
était,
jamais choses comme
il
ça.
Il était toujours à se plaindre. Je veux dire il n'avait pas la niaque.
Ouais.
Ouais, mais il a quand même fait des bonnes choses. Enfin, oui, l'année dernière, il fait une très bonne deuxième partie de saison. Et puis, quant au fait de se plaindre, il se plaint parce que il dit publiquement, il dit aux journalistes ce qu'il dit à ses mécanos, ce qu'il dit à son équipe, et que je pense qu'aujourd'hui, l'argument de l'équipe de dire voilà, on le retire parce qu'il est tout le temps en train de se plaindre, etc. C'est un argument fallacieux parce qu'on sait très bien que Jem Alguersuari, il est sponsorisé par Repsol, qui est un grand pétrolier espagnol. Et Repsol qui sponsorise beaucoup le sport automobile. Et je pense que l'objectif de Toro Rosso, c'est d'avoir le sponsoring de Repsol pour les années à venir. Donc hop, ils font rentrer Alguersuari pour avoir le pognon. Je pense que les reproches que font l'équipe sur comme quoi il est trop critique, etc., il l'utilise parce que c'est entre guillemets la réputation de Bourdais en disant voilà il parle trop. Mais je pense que tous les pilotes de Formule 1 quand ils sont pas contents généralement ils critiquent, ils le disent à l'intérieur de l'équipe, ils gueulent. Voilà, donc je pense pas que ce soit vraiment ce comportement là qui lui cause
Oui, on est de l'ordre du prétexte parce que si c'était uniquement pour des questions de résultats, il y a d'autres pilotes.
Voilà,
on peut imaginer un Takuma Sato par exemple.
Voilà.
Comme ça.
Moi, ce que je pense, c'est que on l'a gardé parce qu'on s'est dit, on va être en slick. Il a déjà piloté ce genre de voiture, ça va être bien. Non, mais de ce côté-là, je pense qu'il a déçu parce que finalement, il apportait rien de plus. Le fait qu'il est habitué à ce genre de voiture en slick, etc. Quoi.
Mais est-ce que Toro Rosso est une équipe qui a besoin qu'on lui apporte quelque chose ?
Comme tout le monde. Non mais comme toutes les écuries.
Ils vont pas être exigeants. Ils ont un pilote entre guillemets d'expérience qui est pas à chier. Je suis désolé, mais il est pas à chier. Il fait une mauvaise saison parce que cette année l'écurie est mauvaise et je pense que Red Bull a mis les choses dans l'ordre au sein de l'écurie. Buemi le domine légèrement, mais il faut quand même rappeler que Buemi c'est le chouchou de Red Bull. Voilà, c'est le remplaçant de Vettel dans le cœur et tout. Voilà, le seul défaut de Bourdais, c'est qu'il s'est pas fait sa place au sein de l'équipe.
Et qu'il est pas, enfin, parce que tu sais, l'optique de Red Bull, c'est qu'il y a un système de développement et lui, il est pas dans ce carcan-là. Mais c'est vrai qu'après, c'est un peu gonflé de la part de Toro Rosso de parler de résultats. La voiture a 6 semaines de retard au niveau du développement.
Non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que il y en a plein de petits jeunes qui ont les dents longues et. Et lui, il a pas assez la niaque. Moi, je dis que
sans doute.
Il mérite pas sa place. Il a un certain nombre d'années derrière lui, l'expérience de la course. Bon, ben voilà, il fait rien d'exceptionnel, donc pourquoi le garder Non, moi, ça me choque pas qu'on le dégage, sincèrement. Et j'ai rien contre lui, hein, mais.
Non, mais c'est pareil, moi non plus ça me choque pas qu'on le dégage, il y a une logique en Formule 1, on le sait très bien, même au niveau des pilotes, puis encore c'est, entre guillemets, c'est une période en ce moment où les pilotes sont choisis pour leur talent, on a connu des époques où les pilotes ils étaient pris pour la valise qu'il y avait derrière, et c'est vrai que...
La valise RTL.
Et c'est vrai que malheureusement, Bourdais n'a pas fait ses preuves. On lui a pas donné les moyens de faire ses preuves, etc. Moi, c'est surtout dans la justification de ce remplacement que je les trouve un peu faux cul, Toro Rosso.
Oh bah, c'est la F1.
Oui, voilà.
Ouais.
La franchise est en F1. Non, mais faut le reconnaître.
C'est d'ailleurs exemplaire, quoi, pour que Bourdais s'en aille, c'est que vraiment, il y a un problème, quoi. D'ailleurs... C'est ce qui est très drôle, on en parlait tout à l'heure en dehors, hein. Si vous avez l'occasion, vous allez sur le blog de... Quoique je ne devrais pas lui faire sa pub, vu qu'il m'a retiré mon commentaire. Vous allez sur le blog de Jean-Louis Moncey et vous découvrez que Jean-Louis Moncey, tu sais, le monsieur qui fait du bruit à côté des deux autres qui font du bruit sur TF1. Donc il a pris la défense du journaliste qui a posé la question dans les stands abordés, comme quoi est-ce qu'il finissait son contrat ou est-ce qu'il partait, est-ce qu'il serait encore là en Hongrie quoi. Et Bourdet lui a dit qu'il faisait chier. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est les mêmes qui, depuis un an et demi, nous disent « Bourdet, c'est très bien, il est super franc, il est super honnête. » Et c'est ce que j'ai mis dans mon commentaire, ce qu'il doit faire, que ça a été évacué. Il est super honnête et tout, c'est vachement bien. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui lui reprochent d'avoir été franc et de dire franchement, au bout d'un week-end où il a été harcelé par les journalistes, de dire « bah vous faites chier avec cette question, vous me la posez tout le temps, la réponse, elle est la même. » Aujourd'hui, voilà, c'est Haro sur Bourdet parce qu'il a osé dire « vous faites chier un journaliste ».
Parce que dans l'extrait audio, il pose trois questions au journaliste. Donc, la panne hydraulique, normal, puisqu'il vient d'abandonner. Il lui redemande, forcément, est-ce que vis-à-vis des rumeurs et tout... bon, il répond correctement la première fois. Il est professionnel. Et là, le journaliste, il revient dessus.
Mais est-ce que tu seras là en Hongrie, quoi ?
Est-ce que c'est le moment en plus ? Il fait un mauvais week-end, ouais, il vient d'abandonner. Cette question-là, on lui a sans doute posé, mais 20, 30, 40 fois, tout le week-end. Et vu qu'en plus, il semble que ça soit se confirmer, franchement, dans la tête, ça devait pas être super top au niveau mental.
Mais en plus, enfin, il y a alors ce qui a choqué Jean-Louis Moncey dans sa meilleure réponse, c'est que le journaliste, c'est quelqu'un qu'on voit tous les week-ends sur les Grands Prix de F1. On l'appelle, il est tout le temps dans le stand de Toro Rosso. Il suit Bourdet depuis un an et demi. Donc c'est un peu quasiment un ami quoi. Et moi, je comprends Bourdet de voir un ami qui est censé me suivre tout le temps, qui parle. C'est sans doute le seul mec dans l'équipe que je peux voir, avec qui je peux parler français. On discute un petit peu de tout, et puis je me confie à lui. Voilà, je lui parle franchement en tant que journaliste. Le mec, il est habitué à me suivre, et là, ce con, alors que ça fait 3 jours que tout le monde me pose la question, il vient me poser la question à lui. Donc je pense à ce moment-là, Bourdet peut-être aussi se sent trahi. Je dis voilà, ce mec il me suit depuis le début et puis là il ose me poser cette question alors qu'il sait que ça m'énerve. Il se sent trahi et je dis bon bah je vais le remettre en place. Je peux pas le faire avec les autres journalistes parce qu'ils vont me taper dans le dos. Mais lui à la limite c'est quelqu'un qui me connaît, il va savoir ce que je ressens. Donc il va mettre ça sur le compte de la colère passagère et il va pas m'en vouloir. Donc je pense que c'est à ce moment-là que Bourdet il éclate en se disant bon bah c'est lui, il m'en voudra pas et puis comme ça le message sera passé. Donc si on poursuit sur les transferts, on va pas parler de Alonso chez Ferrari, on en a déjà parlé plusieurs fois cette saison.
Là on a eu deux doubles rumeurs chez Gazzetta dello Sport et Marca, je crois, ou c'est As. Faisons As, c'est l'autre. As. Là quand même, on a l'impression que ça se rapproche.
Bah faut quand même se rappeler, c'est qu'il y a pas longtemps, on a eu les 24 heures du Mans, 24 heures du Mans dont le départ a été donné par un certain Luca di Montezemolo. Et que même week-end, il y avait un certain Fernando Alonso qui était présent sur le circuit. Et on sait qu'apparemment, il y a eu une rencontre entre Fernando Alonso et Luca di Montezemolo. C'est peut-être là qu'effectivement, les choses se sont bien ordonnées.
Franchement, j'aimerais trop, quoi.
Il y a aucune certitude quant au contrat des pilotes. Hein. On sait très bien qu'on nous dit jusqu'en 2010, mais on n'a jamais vu les contrats. Voilà.
Sur une dépêche, il disait que visiblement, s'il devait partir, Raikkonen, il demanderait quand même son année de salaire.
Est-ce que Ferrari préférera pas avoir Alonso, quitte même à payer une année de salaire à
quoi ça que... Mais ouais. Il est cher quand même. Hein.
Ah ouais. Ouais. Il y a 60 millions d'euros hein, quand même.
Oh, il y a bien un sponsor d'Alonso qui acceptera de payer la différence. Ah,
alors, en plus, alors, on a appris aujourd'hui que Alonso aurait l'intention de créer une équipe cycliste avec le partenariat de Santander. Donc, on aurait une équipe espagnole qui s'appellerait Santander. Il aimerait engager Contador comme cycliste numéro 1. Contador qui pourrait gagner le Tour de France la semaine prochaine. Et on sait que Santander sera sponsor Ferrari l'année prochaine.
Voilà.
Donc on se dit effectivement, Alonso patron, propriétaire d'une équipe de cyclistes sponsorisée par Santander et Santander partenaire de Ferrari, ça peut que marcher.
Je plains Felipe. Quand même, avoir Alonso comme coéquipier...
Moi je dis qu'ils auraient dû changer les deux.
Peut-être.
Non pas que je critique Massa, moi Massa finalement il est J'ai été agréablement surpris comme beaucoup l'an dernier, mais je pense que ça aurait été mieux pour tout le monde, quoi. Parce que là, il va avoir une situation assez conflictuelle quand même.
Ce qui est drôle, c'est qu'en plus, Raikkonen, s'il avait eu Alonso à côté de lui, il s'en serait foutu complètement.
C'est ce vers quoi on se dirige, hein. C'est ce que disent les rumeurs, hein. Alonso, s'il vient, il y aura sans doute un autre pilote que les deux pilotes actuels.
Vettel. Parce...
voilà.
Non, mais on peut rêver, hein.
Non, Weber.
Non, pas le champion du monde en titre, quand
même. Ah, bah maintenant c'est Weber, toi.
Non, je plaisantais.
Alonso chez Ferrari, qu'est-ce que je veux dire, je sais plus.
Vivement, parce qu'il lâche jamais. Il nous l'a encore prouvé, quoi. Alonso, t'as l'impression qu'il débute la F1, quoi. C'est encore un Vettel, c'est encore un Sutil, un gars qui en veut, quoi, un Rosberg, quoi.
Donc, ensuite, dans les autres rumeurs de transfert, on parle déjà d'un transfert vers chez Brown Grand Prix.
Ouais.
Hein, parce que bon, Barrichello, il est pas content.
Ouais, il est pas content du tout.
Alors, vas-y, Chidi, raconte-nous.
Bah, il est pas content parce que il a l'impression que Brown, c'est comme Ferrari. Vous voyez, un peu. Sauf que le gars à côté de lui, il s'appelle pas Michael, il s'appelle Jensen. Parce que sinon, tout le reste est quasiment la même.
Oui, à part la couleur.
Sauf la couleur.
Voilà. Et le moteur.
Et donc il dit je suis pas content, hein, parce que là les conneries que vous nous faites, il a dit cette semaine, Brown a montré comment perdre une course, hein. Il a dit dites-moi ces choses-là, ça me fait penser à des choses que j'ai déjà vécues. Et donc Barrichello est pas content. Alors, en rajoutant en plus à Button qui a pas fait une course extraordinaire, cette espèce de pays merveilleux dans lequel vivait Brown depuis le début de la saison, c'est un petit peu plus troublé en ce moment.
C'est vrai.
Se dit que peut-être Barrichello, déjà, peut-être que même si ça s'était bien passé, peut-être qu'il n'aurait pas fait non plus tant de saisons que ça. Hein. Ils l'ont gardé chez Brown pour avoir une continuité.
Non mais ce qui est très drôle avec Barrichello, c'est que Barrichello quand même à la sortie en interview dit mais si c'est comme ça, moi je re-signe pas. Mais ouais. Ils ont jamais dit qu'ils voulaient que tu re-signes. Alors, donc,
je pense que Brown, c'est un feu de paille.
Ah voilà, c'est justement la question que je posais, parce que on a deux pilotes dont le nom circule pour aller chez Brown. On a Rosberg.
Ah non.
Alors, attention, hein, c'est de la grosse rumeur, ouais, etc.
Là, c'est de la grosse rumeur.
Et on a Kubica.
Oui, bon, ça je m'en fous.
J'ai même lu Raikkonen. Alors ça non plus, j'y crois pas. Hein.
Donc alors justement, c'est pour en revenir à ce que disait Enzo, est-ce que vous, Brown Grand Prix, vous semble être une équipe qui a de l'avenir?
Aucun. Déjà, ils gagneront pas cette année. Non mais clairement, je pense que cette année déjà constructeur là déjà. En face ils ont Red Bull qui ont vraiment deux pilotes qui ont vraiment du talent et qui en montent en flèche. Et je pense que, point de vue pilote, l'avantage qu'avait Button ne suffira pas face aux deux même. Je vois même Button peut-être finir troisième du championnat, quoi.
Un cash direct, là.
Mais sur plus loin, sur au-delà de la saison.
Et au-delà de la saison, on voit que, quand tu regardes la voiture, elle est quand même toujours blanche. D'accord, il y a un petit logo Virgin, mais depuis le temps, si Virgin n'a pas accepté d'aller plus loin dans son implication dans l'équipe, c'est qu'il y a quand même quelque chose.
Ouais, mais c'est parce que Brown, maintenant, il demande trop cher.
Oui, il demande trop cher, mais justement, il demande trop cher. Pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin pour les années suivantes, pour préparer une voiture, etc.
Et c'est aussi le problème de Brown, hein. Excuse-moi de te couper, Enzo, mais c'est vrai que c'est aussi le problème de Brown, c'est que malheureusement, ils vont se retrouver à devoir convoiter les sponsors, ils sont déjà en train de le faire, mais avec des exigences de champion du monde, en se disant, attention, nous on a quand même une voiture...
Potentiel champion du monde.
Voilà, enfin...
Ouais. Tandis que cette année, en plus, il n'y aura pas les changements de règlement comme il y a eu l'an prochain, ils ne pourront pas bénéficier de ce nouveau...
Ah, mais ils ont déjà une bonne base.
Mais bien sûr qu'ils ont une bonne base. Mais on s'aperçoit que Renault revient, que Ferrari revient, que McLaren revient, que Red Bull est sans doute devant maintenant. Donc, je pense que qu'est-ce qu'il va avoir demain, au pire, l'an prochain. Au pire, il y aura plus de ravitaillement, donc ce sera ce sera des monoplaces un peu plus lourdes à concevoir avec des gros réservoirs, etc. Mais il n'y a pas une remise en question de la base de la voiture profonde, quoi, contrairement à cette année. Donc tout le monde va progresser plus vite. Eux, ils n'auront pas une année complète, d'autant plus s'ils se battent pour le championnat, ils vont faire évoluer leur voiture jusqu'au bout, comme l'a fait McLaren, comme l'a fait Ferrari, on voit qu'ils le payent cette année. Donc je pense que l'avenir de Brown, je pense que voilà, c'est un feu de paille d'une année. Alors en peut-être plus... qu'ils auront la chance d'aller au bout cette année et d'avoir un voire deux titres. J'en doute encore, mais je franchement l'an prochain j'y crois pas.
Mais en plus ils ont un gros problème, c'est que justement ce que je disais, ils vont devoir attirer des sponsors, mais en même temps en attirant des sponsors, ils peuvent pas se sous-vendre, ils peuvent pas sous-louer leur espace. Ils vont quand même dire voilà, on est une équipe en vue, ça va sans doute être à la fin de la saison l'équipe qu'on aura le plus vue en temps télévisé avec Red Bull. Donc ils vont devoir vendre leurs espaces super chers, sauf que les sponsors vont dire attendez, mais nous on a US F1 qui est à côté qui est pas cher, on a Manor qui n'est pas cher et on a Campos qui n'est pas cher. On sait déjà que USF1 pourrait être en partenariat avec YouTube. On sait déjà
avec
que.
Villeneuve en plus au volant.
Ouais, arrête. On sait que Manor pourrait être racheté par je sais plus qui.
Il pourrait être Virgin.
Voilà. C'est ça. Par Virgin. Donc la concurrence va jouer contre Brown, malgré leur statut de vice-champion du monde ou de champion du monde. La concurrence va jouer contre eux. Et ils n'auront pas le budget qu'ils peuvent espérer. Hein, ils n'auront pas un gros budget. Mais c'est vrai qu'en même temps, l'avantage, c'est que comme le règlement change peu, ils peuvent quand même espérer, sans doute pas jouer le titre, mais jouer en face de Williams, en face de
Fer.
Ça reste quand même un baquet à convoiter.
Mais de toute façon,
je rappellerai quand même qu'il y a un certain Nico Rosberg qui court chez Williams.
Ouais. De toute façon, ils vont garder Button et Button sera le numéro 1. Donc le deuxième baquet, ça sera pas un. Ce sera pas un potentiel champion du monde.
Oui, mais en même temps, je suis pas d'accord parce qu'on dit que Rosberg va aller chez McLaren. À McLaren, il y a Hamilton. Hein. Entre Hamilton et Button, il préfère largement rouler à côté de Button qu'à côté d'Hamilton.
C'est vrai.
Enfin, personnellement, en tant que pilote. Hein. Mais je n'ai pas le permis, je ne peux pas rien dire. Ensuite, autre rumeur. Du côté de chez Renault, donc cette fois-ci... on en a beaucoup moins parlé que Bourdais parce que ça, à la limite, ça nous choque beaucoup moins en France. Il se murmure que le Grand Prix d'Allemagne aurait pu être le dernier Grand Prix de Piquet. Maintenant que, entre guillemets, la crise FIA FOTA est un peu résolue, on dit que Briatore peut plus se préoccuper de son équipe, donc du cas Piquet. Et puis que Piquet, dernièrement, a quand même fait pas mal de remarques, à la fois via Internet, dans des interviews, ou via son Twitter, comme quoi la voiture c'était de la merde, que Renault progresserait pas, que voilà, l'équipe était pourrie, et... Donc voilà, ça sent quand même le mec amer qui est sur le déclin, qui est sur le départ annoncé.
Je trouve ça scandaleux qu'on vire Piquette.
Ah bon?
Non, je plaisante.
Ah non, ça aurait été drôle.
Ouais.
Et donc, on parle de Grosjean pour le remplacer. Grosjean qui n'est plus en tête.
Il est pas si gros que ça d'ailleurs.
Non. Grosjean qui n'est plus en tête du GP2, mais qui peut encore il a quelques points, il est dans une équipe qui peut se battre. Est-ce que ça serait l'intérêt de Grosjean de partir tout de suite chez Renault pour perdre en fait un titre, hein, une chance d'avoir un titre? Moi, je pense que le mieux, ça serait de le laisser chez.
Avant de perdre.
de le laisser chez GP2 ou en GP2, et pourquoi pas faire rouler un mec comme Bourdais.
La saison de GP2 est finie avant la saison de F1.
Oui, mais bon, on va quand même pas garder Piquet jusqu'au Grand Prix de Singapour.
En septembre, voilà, c'est ça.
Non, on est bien d'accord sur la fin de saison, c'est possible, il peut le faire. Mais est-ce que c'est l'intérêt aujourd'hui de Grosjean de quitter le GP2 pour intégrer dès la Hongrie Renault, comme le dit la rumeur?
C'est peut-être un peu tôt, en effet. Surtout que voilà, le calendrier peut lui permettre du GP2, et puis une fois la saison de GP2, de basculer tout de suite sur la F1 et de faire quand même 4 Grands Prix.
Ça serait d'ailleurs d'autant plus intelligent que peut-être d'ici à Singapour, on aura appris qu'Alonso partait chez Ferrari, donc peut-être qu'il y aurait un système de chez Renault d'équilibre, donc il aura plus ses chances par rapport à Alonso. et donc il pourrait mieux se défendre et mieux se faire voir, alors que là en ce moment face à Alonso on sait très bien qu'il y a une différence de châssis et que voilà.
Ça ferait 4 grands prix pour piquer pour se défendre.
Ensuite on peut parler 30 secondes de Heidfeld qui regrette de ne pas avoir accepté l'offre de Brown Grand Prix. Et qui met la pression sur BMW en annonçant qu'il est déjà en négociation avec 2-3 autres équipes.
Ouais, alors franchement, cette année, dire qu'on est en négociation avec 2-3 équipes, ça veut rien dire. Quand il y a 3 nouvelles équipes qui débarquent, c'est un peu facile.
C'est clair.
Et donc autre rumeur, enfin là c'est pas une rumeur, c'est quelque chose d'avéré, puisqu'on on a Jacques Villeneuve qui a dit qu'il voulait revenir.
Il a dit qu'il voulait.
Ouais, voilà.
Ce qui veut pas dire qu'une équipe le veut. D'accord, c'est lui qui veut.
Et pourquoi pas?
Bah, c'est vrai que.
Ouais, mais.
Apparemment, ça serait via USF1. Bon, en même temps, le côté Jacques Villeneuve connu aux États-Unis, quand on voit ce qu'il a fait en NASCAR.
Ouais, puis c'est honnêtement, voilà. en pilote américain pour faire connaître la Formule 1, c'est pas Villeneuve qu'on irait mettre. Ça serait une bonne vitrine pour USF1 au sein de la F1 d'avoir Villeneuve, parce que bon, voilà, c'est Villeneuve et que. Mais franchement, Villeneuve, il faisait déjà plus rien quand il était en Formule 1, quand il était dans des équipes. Là, ça fait 4 ans qu'il a arrêté la Formule 1. Il veut nous faire croire qu'il va revenir en forme et tout.
Ouais.
Autre rumeur. Toyota verra un retrait. Ça pourrait être annoncé dans les prochaines semaines.
Ah ouais?
Il se murmure. C'est la grosse rumeur. Encore plus grosse que celle de Bourdais.
Bah, c'est un vieux serpent de mer, hein, ça aussi.
Mais on sait que Toyota avait prévenu, enfin les pilotes avaient laissé entendre avant la saison que Toyota leur donnait 6 courses pour gagner.
Ah, pas de chance.
Et quand on voit alors c'est le syndrome Toyota, hein, ils font des bons débuts de saison et puis en plein milieu de saison, alors ils savent pas développer la voiture ou ils se perdent ou ils font des trucs comme ça ou je sais pas, c'est plus la saison pour eux. Mais là, on a encore eu un week-end catastrophique de la part de Toyota.
Ah, s'ils gagnent, ça sera quand même le ratio investissement-victoire le plus élevé de l'histoire de la F1.
Voilà.
S'ils gagnent.
Ensuite, on peut peut-être parler de la bonne nouvelle de ces 3 semaines. Je dirais même l'excellente nouvelle.
J'ai baissé mon index.
Oui, déjà. On vous mettra tout ça dans le glossaire hein, du SAV de la F1. On va créer un petit glossaire pour tous les termes de golf. Donc, on a appris que Toyota ne soutiendrait plus le Grand Prix de Fuji.
Pourquoi oui. C'est une bonne nouvelle?
Et que donc, l'année prochaine, on n'aurait plus Fuji.
Et pourquoi c'est une bonne nouvelle?
Parce qu'on n'aurait plus les ans.
Suzuka.
Non, pas forcément.
Ouais,
c'est pas obligé.
Ouais.
On peut facilement penser qu'il fera un Grand Prix du Japon à Suzuka. Mais il n'y aura plus Fuji.
Mais il était bien, ce Fuji.
Oh non! Donc voilà, c'est la partie de l'année prochaine, c'est fini Fuji, donc on est à Suzuka cette année, et espérons-le, à partir de l'année prochaine, à nouveau Suzuka.
Suzuka!
à noter que, aussi, côté circuit, on devrait retrouver le Grand Prix du Canada l'année prochaine.
Oh.
Ça semble en voie de confirmation.
Ah, les équipes, elles veulent revenir en Amérique du Nord, donc
Et que, on serait en passe d'avoir un Grand Prix en Bulgarie.
En Bulgarie.
Et en France, non?
Non, en France, non. Alors, le projet de Flins est... Alors, entre les manifestations écologiques et la découverte d'un site archéologique sur le site qu'ils veulent construire, le projet de Flins est mort. Et aujourd'hui, étant donné la crise, le projet qui semble le plus pertinent, c'est Manicourt 2. Puisque lui, il ne coûte pas cher. Alors que le projet de Beltoise...
Et le Castellet.
Ouais, mais non, le Castellet, non.
Oh, si, le Castellet...
Non, c'est bizarre, il y a que les mecs du sud de la France qui veulent aller au Castellet.
T'as jamais piloté dessus, c'est pour ça, quoi.
mais j'ai pas de permis, qu'est-ce que tu veux que je
Ah oui, c'est vrai. Franchement, ça serait la solution, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Le circuit existe, il y a toutes les infrastructures qui vont bien, il fait beau, donc ça peut être à n'importe quelle saison de l'année, il y a que des avantages. Je comprends pas.
Ah, mais c'est Bernie, hein, c'est la gestion de Bernie.
Oui.
Mais justement, il lui appartient, ce truc. Hein.
Ah bon?
Il faut pas chercher de logique. Oui, il appartient à Bernie.
Et bien sûr, il appartient à Bernie, le circuit.
Mais c'est ça le truc, c'est que ça peut pas lui rapporter d'argent, donc. Ouais, c'est pour ça qu'il y va pas, parce que il va se payer à lui-même ses 20 millions qu'il demande à chaque fois qu'un Grand Prix veut participer. Ouais. Impossible. Il préfère demander à quelqu'un d'autre. Et que ce soit payé par le contribuable français, c'est tellement mieux. C'est plus efficace. Et Bernie, il aime bien quand c'est efficace.
Il aime bien les gens efficaces.
Voilà. Hein. Ouais. On va zapper la guerre FOTA et FIA qui a repris, qui va s'arrêter un jour, on sait pas quand.
Ouais.
Univers lointain. Et on va passer donc concrètement, techniquement, parfaitement, après une demi-heure 45 d'émission, on va passer tout de suite à la qualification. Qualification, on va juste parler de la pole. Enzo,
oui.
As-tu des infos sur la pole? Donc, la déjà, pole, qui a fait la pole?
Eh ben, Marc Weber, bien évidemment.
Marc Weber, waouh.
Eh oui, ouais. Donc, c'est la première pole de Marc Weber. C'est la 20e pole position d'un pilote australien, mais la première depuis le Grand Prix d'Allemagne, déjà l'Allemagne, en 1980, donc plus 29 ans. Et la dernière, c'était Alan Jones, qui sera sacré cette année-là également. Oui.
C'est un bon signe.
C'est un bon signe.
Ouais.
Donc Weber est le troisième Australien à signer une pole position, puisqu'avant lui, il y avait eu Brabham, Jacques Brabham. Et Alan Jones.
Oui, c'est pas les fils Brabham qui ont signé des pôles. Hein.
Non plus. Et donc Weber est le 93e pilote à signer la pole. Mais c'est aussi celui qui a attendu le plus longtemps avant de la faire, puisqu'il a attendu 131 Grand Prix.
C'est devant Trulli, je crois, qui avait attendu 124 Grand Prix.
On dirait que c'est toi qui as fait l'étude.
Non, mais je rajoute une précision parce qu'il se trouve que moi aussi j'ai étudié ces statistiques et j'avais trouvé sur le site statf1.com, j'avais trouvé cette statistique, voilà, très intéressante. D'accord. C'est surtout que j'avais oublié de te l'écrire, donc je te le dis comme ça en direct live. on va peut-être noter quelques petites choses, quelques petits faits marquants de la course, de la qualif, les Browns qui sont devant Vettel.
Oui.
Oui.
C'est assez surprenant. Les Browns qui ont bien marché d'ailleurs pendant, enfin bien marché. Elles n'ont pas été aussi à la rue que ce qu'on pouvait attendre malgré les températures aux essais.
C'était les voitures les plus légères.
Oui.
Ensuite derrière les Browns, on peut peut-être noter aussi le bon retour en forme de Hamilton et Kovalainen.
Oui.
Alors petite particularité, c'est que Hamilton profitait d'un nouveau châssis, ce qui n'était pas le cas de Kovalainen. Donc on peut pas non plus imputer ça à un progrès qui aurait été fait par l'équipe d'un point de vue technique. C'est peut-être sans doute que l'équipe, enfin oui, la voiture,
là il y a quelque chose de global.
Se sent bien sur le Nürburgring.
Ils ont peut-être aussi mis un peu les bouchées doubles, hein, parce qu'on est en Allemagne.
Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais en même temps, dans ce cas-là, faut qu'ils continuent.
Ouais.
On est quand même obligé de dire, de saluer l'arrivée en Q3 de Piquet quand même.
Ah bah, j'allais y venir.
Oui.
Avant, peut-être plus.
Il y a d'autres trucs.
Plus symbolique plus avant, c'est que Sutil, se qualifie, je crois, c'est en cinquième position, et c'est le premier pilote Ferrari.
Septième.
Septième, et c'est le premier pilote Ferrari, devant les deux Ferrari.
Qui Sutil, sont... premier pilote Ferrari.
Bah oui.
Premier pilote
Ferrari. Ah non, c'est Mercedes, je suis con.
Ont le moteur, ils ont tout le train arrière Mercedes.
Ah ouais, mais moi, je suis encore parti sur l'année dernière, moi. Désolé, je m'excuse. Donc c'est effectivement le troisième pilote Mercedes, mais le premier ancien pilote Ferrari, quoi. Voilà.
C'est le cinquième pilote Mercedes.
Mais oui, il y a les Browns aussi.
Merde, vache. Mais non, mais moi je pensais aux Browns. Ben non, mais il y a qui d'autre? Ah ben oui, il y a les McLaren.
Les McLaren.
Je suis tellement peu habitué à ce qu'elle soit devant.
Il y a la rue.
Tu sais, McLaren, ils ont des moteurs Mercedes encore. Je sais pas
si
ça va durer longtemps.
Avec Red Bull qui apparemment passerait chez Mercedes, ça fait qu'on aurait 7 Mercedes.
Red Bull chez Mercedes,
ouais.
C'est déjà le cas, non?
Non.
Mercedes.
C'est sur Renault, arrête.
Ah oui, c'est vrai.
Et il paraît que BM est aussi sur les rangs pour Red Bull.
Je croyais que BM était sur les rangs pour avoir un moteur Mercedes. Ça serait beau.
En fait, tu sais pourquoi ils veulent...
Quoi qu'en même temps, BMW, le problème, c'est pas le moteur.
Non, mais tu sais pourquoi ils veulent tous motoriser Red Bull? C'est pas pour l'équipe.
Pour être champion du monde.
Non, c'est surtout pour pouvoir proposer un contrat à Vettel.
Voilà.
D'ailleurs, j'ai entendu dire que... Pardon.
Ah, très intéressant. C'est une bonne rumeur. C'est qui ta source? Donc voilà, Sutil qui est devant les pilotes Ferrari qui étaient assez chargés en essence.
Peut-être pire.
Et puis effectivement, comme ça aurait pu être pire, ils auraient pu être devant Nelson, derrière Nelson Piquet.
C'est vrai.
Hein, Nelson Piquet qui réussit cet exploit, non seulement d'être devant Alonso sur la grille, c'est pas la première fois cette saison, je crois que ça va être la deuxième fois. Mais surtout, Alonso a échoué en Q2 et lui, il est en Q3.
Est-ce que c'est déjà arrivé qu'ils soient en Q3? Je pense quand même.
Piquet, ouais, c'est déjà arrivé. Mais je pense que Piquet, il a bu du Red Bull. Ça lui donne des ailes. Allez, t'as envoyé ton message, Enzo?
Ouais. Je lui ai dit, arrête de m'emmerder et va sur le site www. Putain, j'y crois pas, il m'a renvoyé un texto, appelle-moi. C'est en même temps que moi.
Donc, on va peut-être aussi signaler que Glock a été rétrogradé de 3 places pour avoir...
Oui, non, attends, deux secondes, parce que j'allais dire quelque chose. Mais tu sais, quand j'ai toussé, et on m'a dit que c'était intéressant. Non, j'avais entendu dire que toutes les nouvelles écuries, en fait, qui ont été sélectionnées, c'est celles qui disaient vouloir utiliser le moteur
Cosworth.
Et parce que l'idée qu'avait la FIA derrière, c'était d'imposer un moteur unique. Et donc c'est sur ces critères qu'ils auraient été sélectionnés pour pouvoir après dans une deuxième étape imposer un moteur unique pour encore réduire les coûts.
Je pense que surtout l'idée c'est pas tant le moteur unique, c'est surtout pour attester l'efficacité de ce qu'ils ont annoncé, je crois il y a un an, comme quoi il fallait le moteur uniforme. Et qu'il y avait un motoriste officiel de la F1 qui était Cosworth. Donc c'était, je pense que c'était surtout pour ça, pour valider leur opinion et dire, voyez, ça marche, tout le monde vient s'inscrire chez nous, les 3 nouvelles équipes, c'est des Cosworth. Parce qu'en face, Toro Rosso et tout le reste, toutes les autres équipes, ça les intéresse pas de prendre Cosworth. Elles veulent non. Mercedes, elles veulent Renault, Ferrari est plus trop en vogue en ce moment, puis je crois que Ferrari, ça les fait pas chier. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que c'est la grosse rumeur, c'est la chose qui se dit. Et apparemment, c'est une équipe qui, c'est N Technology qui attaque en ce moment, qui envisagerait apparemment une action en justice contre la FIA pour truc non concurrentiel, parce que ouais, apparemment N Technology. Le truc, c'est par exemple N Technology, c'est un consortium qui est proche de Ferrari, donc eux, ils auraient pris un moteur Ferrari. Mais dans ce cas-là, c'est aussi donner un pouvoir au constructeur, un vote au constructeur en plus. T'imagines, toi, la FIA qui a des moteurs Cosworth, ils s'en foutent, c'est des moteurs privés de la FIA. Par contre, si c'est tout le monde se met en Mercedes ou tout le monde se met en Ferrari et Renault, eh ben ça fait des voix en moins, quoi, parce que Renault et Ferrari peuvent faire pression sur l'équipe en disant écoute, si tu veux gagner notre moteur ou si tu veux l'avoir moins cher, va dans l'autre sens. Ce qui n'a d'ailleurs pas empêché Force India cette année d'aller s'inscrire, Force India ou Brown d'aller s'inscrire dans le nouveau championnat.
Ouais.
Donc voilà, Glock rétrogradé pour 3 places parce qu'il a gêné soi-disant Alonso, je crois.
Ouais, ça, il était déjà 19e.
Je trouve pas ça terrible parce que oui, il l'a gêné, mais il l'a pas empêché de passer en Q2 puisque c'était en Q1 quand ça s'est passé.
Ouais, voilà.
Donc franchement, que ça change quoi.
C'est ça, je pense que
c'est un peu ridicule quoi comme sanction quoi.
Sur ces sanctions là, faut pénaliser quand vraiment il y a un vrai dommage fait.
Le gars
ne
peut pas se qualifier et tout ça derrière.
Moi j'ai vu franchement, à un moment donné, faut aussi arrêter de dire qu'il est gêné parce que le mec il est 50 mètres devant. Moi je l'ai pas vraiment vécu, mais toi t'as vécu une époque où pour se qualifier, il y avait même un tour pré-qualification. Pour se qualifier, il y avait 26 ou 28 voitures en piste. Les mecs, ils n'étaient pas en train de se crier dessus. Ah bah non, mais imaginez, hein. Ils ont qu'à assurer les tours, tout simplement. Petite statistique sur les qualifications. Pas de comparatif par rapport à 2008, puisqu'on n'était pas au Nürburgring en 2008. Et donc en Q1, là, il y avait 17 pilotes dans la seconde, contrairement à 6 il y a 2 ans, quand on était allé au Nürburgring pour le Grand Prix d'Europe.
Ouais.
Donc ça atteste effectivement que la hiérarchie s'est bien resserrée. Sur l'écart entre le premier et le 16e, ce qui est encore valide puisqu'on est en Q1, en 2007, il y avait 1,719 seconde d'écart et en 2008, il y avait 933 millièmes d'écart. Là où effectivement l'écart est pas du tout significatif et pas réaliste, c'est qu'en 2007, entre le premier et le 10e en Q2, où censé être la qualification la plus rapide, on avait 947 millièmes d'écart, et que là, alors là, on a 7 secondes 692 d'écart, mais ça c'est dû à la pluie, donc il n'y a pas de comparatif à faire, et c'est cette ligne-là dont je tiendrai pas compte dans l'article que je vais bien finir par écrire un jour.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, on passe à la course.
Oui.
Et on va tout de suite retrouver Enzo en direct. Pour nous dire qui a gagné.
C'est qui? Attends, il faut que je me rappelle des 17 premiers tours que j'ai regardés. Oui, c'est Weber. Non, j'ai regardé le Grand Prix un peu dans le désordre, c'est pour ça. Donc c'est Weber qui l'emporte après après une course mouvementée, on en reparlera par la suite. Donc, juste pour faire une petite stat sur les pilotes australiens, c'est la 27e
victoire australienne.
C'est la première victoire d'un Australien depuis Alan Jones, encore lui. La dernière a été signée donc en 1981 à Las Vegas. Et comme pour la pole, Webber est le troisième Australien après Jones et
Brabham.
Brabham.
Oh, il y en a un qui suit.
Oh, t'as vu, quand même, j'ai du mérite. Hein. En même temps, j'ai la feuille sous les yeux. Donc.
Webber est le 102e vainqueur en Grand Prix. C'est aussi celui qui a attendu le plus avant sa première victoire. 130 Grand Prix. Il a attendu 130 Grand Prix, donc 131e Grand Prix. Et c'est enfin la bonne. Pour souvenir, Barrichello en Allemagne avait en Allemagne 2000 avait signé sa première victoire au bout de son 124e Grand Prix, du moins, pardon, après 124 Grand Prix. Tous les Australiens qu'on a cités, à savoir John et Brabham, ont été champions du monde.
Donc c'est un bon signe, hein. Dès que tu fais la pole et que tu fais une victoire en Australie, t'es champion du monde dans les jeux rouleaux.
On dit. Et enfin, avec cette victoire de Mark Webber, il y a actuellement sur la grille 12 pilotes qui ont déjà gagné une course.
Impressionnant.
Et c'est le troisième cette saison. Allez, on va faire un jeu. Il faut trouver ceux qui n'ont pas encore été. Cindy, un nom là. Allez.
Rosberg.
À toi.
Sutil.
Hetfeld.
Ouais. Cindy. Ouais. Ah merde. Piqué. Junior.
Nakajima.
BMI.
Et le dernier, bah Bourdais.
Et ben voilà.
sur la course, d'abord Mark Webber. Voilà, je vous laisse discuter sur Mark Webber. Parce que je vais sans doute beaucoup parler, donc je vous laisse.
Tu veux parler du départ, par exemple?
Oui, ouais. Voilà, du départ, ouais. Enfin, du départ et ses conséquences.
Bah, déjà, ça fait plaisir. Non, ils en ont parlé à TF1, mais c'est vrai que... Je veux dire, que celui qui n'aime pas Mark Webber lève la main. Non, mais c'est vrai, tout le monde aime Mark Webber.
Non.
Non, c'est pas que tout le monde aime Mark Webber, mais c'est vrai que c'est le mec. Ça fait quand même des années qu'on dit qu'il a le potentiel pour gagner. Et
c'est pas
et
parce
voilà.
Que le gars, tu dis qu'il a le potentiel qu'il faut qu'il gagne et que tu dois être content ouais. Quand il gagne.
Non, voilà, mais c'est vrai que c'est quand même à chaque fois qu'il y a un nouveau vainqueur, moi ça me fait plaisir. Et c'est un mec par son histoire assez récente, son problème à la jambe, etc. Et puis aussi parce qu'on faut quand même se rappeler au début de saison, tout le monde disait, alors là. Je mets au défi quiconque de dire qu'il n'avait pas dit ça. Tout le monde disait que Vettel allait écraser Webber. Et que pour le moment, bah, c'est pas le cas puisque Webber n'est qu'à 1,5 de Vettel au classement général. Et que Webber a gagné sa première course.
Il manquait juste d'avoir la bonne voiture et cette année, il l'a.
Je trouve assez agressif dans sa façon de conduire. Et notamment la façon dont il défend sa position, quoi.
Ah!
Il est très très dur à dépasser et c'est parfois un peu limite.
On en vient donc à la polémique du week-end. Bah, la polémique, oui. Enfin, disons, ça va faire une polémique au sein du SAV. Je regrette d'avoir retiré le Malbranque Stop and Go.
Mais on avait dit que le jeu où il s'illustrerait.
Voilà.
Malbranque Stop illustré.
Bah, disons. Ils ont quand même trouvé moyen de dire que voilà c'était injuste la pénalité attribuée.
Ah bah oui. Mais oui, c'est vrai, percuter une voiture en pleine accélération alors qu'on est devant le peloton et que ça risque de faire un carton énorme, c'est vrai, c'est totalement justifié.
Mais surtout, ouais. c'est qu'on les sentait après être quasiment prudents parce qu'à un moment donné, ils ont rediffusé la caméra intérieure de Webber. Et on voit Webber qui fait son premier écart et il regarde sur le côté. Il fait son deuxième écart. Et on a quand même Webber qui, en conférence de presse hier ou aujourd'hui en interview, a osé dire « Ah bah ouais, mais je savais pas qu'il était là. »
Oui.
Alors déjà, si tu savais pas qu'il était là, tu tournes pas la tête dans ton baquet. Et ensuite, si tu sais pas qu'il était là, quel est l'intérêt sur un départ en pleine ligne droite de donner un grand coup de volant à la droite? Je ne vois pas.
Surtout que il y a...
Moi, ce que j'ai vraiment pas supporter, c'est effectivement les commentaires de moi. L'attitude de Mark Webber est franchement inadmissible. surtout pour quelqu'un qui est président, je crois, du GPDA.
Oui, voilà.
Qu'elle était le premier à gueuler contre Schumi.
C'est vrai.
Quand il était, soi-disant, qu'il zigzaguait un peu trop au départ. Et ensuite, les commentaires de TF1...
C'est pas le genre de Michael, hein.
Non. Les commentaires de TF1 qui disent « Oh non, bon, c'est un peu musclé, mais rien du tout, ça va, quoi. » Et ce sont les mêmes qui, en 97, pour le Grand Prix d'Europe de triste mémoire, quand Schumi a accroché Villeneuve, je me rappelle de Lafitte qui, en direct, a dit « Quel con, mais quel con !» et qui l'a répété plusieurs fois. Et là, il trouve ça normal. Il a fait exactement la même chose.
Weber, surtout que c'est quand même pas sa première fois, parce que si on se rappelle, d'ailleurs Shinji, je crois qu'on avait fait l'un des tout premiers SAV quand on était que deux, on avait parlé au Japon où il avait quand même tassé Massa sur le côté, Massa obligé étant pouvant le dépasser, obligé de passer par la voie, enfin sur la voie des stands. Ah,
c'était
Zebra.
Cette année, c'était même cette année. Hein,
et il a refait cette année, je crois que c'est en Espagne ou à Bahreïn. Il l'a refait avec un pilote Toyota, je crois que ça doit être Glock ou Trulli. Donc voilà, c'est un mec qui est dangereux. Et là, on me retirera pas. Je revois l'image de la caméra de Barrichello et on voit bien Weber qui fait un premier écart pour intimider. Ça, c'est normal. C'est un voilà. Mais le deuxième écart, il est fait pour taper Barrichello.
Ah ouais,
et voilà. Et alors le pire, c'est que après, il vient se plaindre, alors qu'il a failli ruiner la course de Red Bull, parce que, voilà, Red Bull joue championnat, etc. Et après, on va dire que c'est injuste. Et pire, quand Raikkonen et Sutil vont avoir un accrochage de sortie des stands qui est déjà arrivé l'année dernière entre Bourdais, je crois d'ailleurs que c'était aussi au Japon, entre Bourdais et Massa, même genre, hein, le mec sort des stands, l'autre le voit pas, il se voit pas, il se tape. Et là, c'est limite, ah bah oui, mais là, faut punir Raikkonen. Non, là, c'est un incident de course. Il n'y a pas une intention délibérée de foutre en l'air l'autre pilote. Là, sur Weber, il y a une intention délibérée de foutre en l'air l'autre pilote. C'est comportement anti-sportif. Et moi, ça aurait été moi, c'était drapeau noir pour le pilote. Il était exclu de la course. Et puis surtout, c'est cet argument de dire que maintenant on était peinard. La FIA a pénalisé personne ces dernières courses. Il faudrait surtout qu'elle arrête de pénaliser. Faut pas tomber dans l'excès inverse. Faut lutter contre la mauvaise pénalité. Les pénalités à la con parce que Hamilton coupe une chicane. Voilà, on lui colle un drive-thru, enfin, on lui colle 25 secondes. Bon voilà, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme, vous le faites revenir derrière l'autre pilote, puis basta. Là, c'est une pénalité qui est amplement justifiée, puis je la trouve encore gentille, parce que dans l'histoire, il perd que 14,009 secondes, et que ça lui a permis en fait d'avoir une première victoire, qui était une vraie victoire, plutôt que d'avoir un espèce de défilé où il mène la course du début à la fin, parce que c'est un peu ce qui se profilait avec la Brown qui était sur trois arrêts, où il n'y aurait pas eu de course. Là, au moins, il y a eu de l'enjeu. Et puis lui, bah, il pourra se targuer de dire « Ouais, mais moi, ma première course, je l'ai gagnée. Pas grâce à la pluie, pas grâce à quoi. J'ai eu une pénalité, c'était contre moi, tout était contre moi. Et pourtant, j'ai gagné. »
C'était contre moi, mais c'était normal.
Voilà, c'était normal.
Oui, c'était normal.
Donc ça ne retire pas à son mérite d'avoir gagné. Moi, il gagne la course, c'est mérité. Mais sur son comportement, on peut pas tolérer. Et surtout, on peut pas excuser ou se plaindre quand on pénalise ce genre de pilote.
Tout à fait.
Je suis content parce que je m'attendais. Je me disais, c'est bizarre, j'avais l'impression d'être seul.
Ah non.
Parce que je me disais, merde, c'est quoi cette histoire-là? Et même sur les forums, j'étais connecté sur Eurosport en même temps. Et alors, il y avait des gens qui défendaient Weber, etc. C'est injuste ce qu'on lui fait, etc. Faut pas tout mélanger. Faut pas mélanger la guerre de la FIA avec le côté sportif. Là, on parle vraiment du côté sportif. On passe à la suite. Sébastien Vettel, deuxième.
Mais bah, il a failli avoir une course ruinée à cause de Kova, quoi.
Oui,
sa
mauvaise habitude d'être derrière les voitures qui sont.
Mais alors, il paraît en plus qu'on lui avait bien précisé au départ, tu peux le faire
dépasser. Surtout pas Kova.
Ça prouve la bonne forme des Red Bull. Il y a Weber qui a été très bon, mais cette Red Bull est bonne, on l'avait déjà vu il y a deux semaines.
Mais qu'est-ce qu'elle est belle.
Ils l'ont montré dans F1, vous vous rendez compte, ils se sont servis. Bon, tout le monde s'en sert, mais eux, les petites caméras qu'il y a devant. Elles servent de petits ailerons. D'ailleurs, elles sont beaucoup plus avancées que d'habitude sur une autre voiture. D'ailleurs, je trouve, elles sont très avancées sur le nez, le museau de la voiture.
Oui, c'est vraiment au bout du nez. Ouais, moi, en tout cas, sur Vettel, petit week-end, j'ai trouvé. Il peut même s'estimer chanceux parce que il a pas été particulièrement brillant. Il était arrivé avec des gros sabots quand même, hein, en disant ouais l'Allemagne, bon c'est mon circuit, je vais pas faire ce qu'a fait Button en Angleterre, moi je vais gagner, je vais me battre pour la gagne. Puis il a été dominé par Weber tout le week-end. Donc là-dessus, pas grand-chose à dire.
Il a fait le boulot.
Donc Felipe Massa troisième, premier podium de Massa, deuxième de Ferrari.
Elles ont quand même eu l'air d'aller un peu mieux. Bof. En tout cas, peut-être mieux s'acclimater.
Tu sais, Enzo, faut plus vivre sur le monde où Ferrari gagne tous les 15 jours. Hein.
Voilà.
Là, un podium, c'est bien.
Une saison, ouais, c'est un bon résultat.
Non, mais ils vont gagner quand même une fois.
Bah,
il paraît que les dernières évolutions aéro, c'est pour la Hongrie. Hein.
Ouais. Mais déjà, ouais, je trouve que la voiture a pas été en essai, ils étaient pas mal. En qualif, ils étaient pas mauvais. Et puis, ils ont jamais été vraiment en danger en qualif. Et ils ont roulé, ils sont partis avec le plein.
On les a moins sentis à la rue.
Voilà. Et...
C'était dur de dire ça.
Ils sont partis à plein avec Leclerc, ils ont gagné des places. Massa au premier virage, il est quatrième alors qu'il part huitième.
C'est ça aussi qui était intéressant, c'est qu'ils allaient, ils étaient pas très lents alors qu'ils étaient pleins.
Voilà, donc
ils allaient plutôt vite.
Voilà, course discrète, ça c'était certain, mais course puniste quoi. En ce moment, c'est de ça qu'il faut se contenter.
Et voilà, quand tout marche bien, voilà, ils sont capables de faire un podium.
Alors ensuite Rosberg il fait une course traditionnelle on va dire.
Ah non, on peut pas dire ça, c'est une belle course quoi.
Voilà.
Oui, alors tu peux pas dire que Massa bouffe et puis dire derrière Rosberg belle course quoi.
C'est deux courses comparables.
Il y en a un qui a une Ferrari, l'autre il a une Williams quoi. Comparons ce qui est comparable.
Non, faut pas comparer. Non, alors dans ce cas-là, comparons ce qui est comparable. La Ferrari de cette année vaut la Williams de cette année. Et même plus, je vais reprendre les mots de ton chouchou. Rosberg a quand même dit on est plus fort que Ferrari, on va finir devant Ferrari avant la fin de saison. C'est pas gagné, parce que là, Massa fait un podium et Rosberg il est que quatrième. Alors c'est vrai que je suis d'accord, Williams c'est un bon résultat pour Williams, mais par rapport au potentiel de la voiture et ce qu'ils ont pu montrer depuis le début de saison. Quatrième place, c'est dans la lignée des résultats de Rosberg depuis le début de saison. C'est pas top.
Non, mais je disais, Massa-Rosberg, c'est deux courses comparables, très discrètes, mais solides.
Voilà. Le Kers en moins pour... voilà. La place de Massa, elle est gagnée au départ avec le Kers.
Ça les a bien aidés sur ce circuit-là.
Donc après Rosberg, les Brown Grand Prix.
Ouais, bah...
Qui a fait crédit déjà, Barrichello, hein, Button devant Barrichello.
Déjà sur le niveau global des Brown, bah c'est toujours le même problème. Hein, il a fait frais.
C'était hallucinant, c'était de voir en fin de relais, de voir Button qui était encore
sur les pneus. Les Brown en trois arrêts.
Oui.
Stratégie.
Est-ce que c'était
originale?
Oui, c'était prévu. Ils sont partis super vite.
Alors, on a eu droit quand même à la communication radio. Oui, Rubens, il y a eu un problème avec le ravitailleur. On t'a pas mis assez d'essence. Tu vas devoir faire un troisième arrêt.
Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai, ils ont eu un problème avec le ravitailleur. Hein.
C'est vrai.
À son arrêt au stand, tu vas aller aux toilettes à ce moment-là, Shinji. Ils ont même repassé la vidéo. À son arrêt au stand, c'est le deuxième, je crois. Ouais. Ils mettent le ravitailleur et il marche pas. Donc, ils sont obligés de retourner dans le garage en prendre un autre. Donc, il perd quelques secondes. Et je pense que c'est à ce moment-là où Barrichello dit qu'ils font perdre la course. Parce que c'est vrai que, à la limite... Quitte à perdre 10 secondes, bah autant en perdre 15, mettre le plein et laisser partir Barrichello à fond, plein, ouais. Avec les pneus qu'il a, quitte même à rechanger les pneus si on n'a pas fait le bon choix pour être dans le règlement, puis le faire partir à fond et voilà. Mais ils auraient fait ça et puis il aurait fini 6e, il aurait dit ouais, mais dans ce cas-là, fallait me faire partir léger avec les pneus tendres et puis j'aurais fait les temps. Donc c'est Barrichello, il est jamais content, hein, donc c'est le numéro Barrichello. Donc ensuite derrière les Brown, on a Fernando Alonso qui est le dernier pilote dans les points.
Ouais. Non, il est 7e.
Voilà, bien ce que je disais, l'avant-dernier. voilà.
Super.
Ouais.
Ah si.
Ouais,
il a été tout le temps à l'attaque et.
Oui, bien. En même temps, il part 12e, il y a Hamilton qui se cagade devant, il y a Sutil qui est devant mais qui va finir derrière, il y a Raikkonen qui abandonne, il y a Piquet qui était devant, donc Piquet c'est une proie facile. Donc 7e en partant 12e et en ayant 5 pilotes de devant qui ont des problèmes, oui, bon résultat.
Non mais oui, je suis d'accord, mais il lâche rien, regarde comme il continue à attaquer après, et ouais, c'est ça que j'aime bien. Quoi.
Ouais, mais en même temps, il ne peut qu'attaquer.
Mais non, ça aurait été
attaqué. Mais oui, mais il ne peut qu'attaquer. Alors c'est vrai que il y a la polémique autour d'Hamilton. Il y a Loda qui a critiqué Hamilton parce qu'apparemment Hamilton, il aurait demandé à abandonner. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que c'est la différence, c'est que effectivement Alonso, on le voit mal dire, écoutez, faites-moi rentrer au stand. J'en peux plus, j'en ai marre, je veux rentrer chez moi. Mais en même temps, en dehors de ça, il fait pas non plus des trucs exceptionnels avec la voiture sur ce Grand Prix-là. Il se défend bien. La voiture a l'air un peu mieux, même si c'est loin de la révolution que nous annonce toutes les semaines Simons. Donc voilà, c'est Alonso, quoi. On va pas se mettre à hurler au génie à chaque fois qu'il fait une course, Alonso, non plus. D'accord, on le veut chez Ferrari, mais bon, faut raison garder à un moment donné.
Mais je trouve que son attitude dénote tellement par rapport à celle de Raikkonen que...
Mais merde, on pourrait arrêter quand même de les comparer tout le temps.
Il n'y a pas photo, quoi. On les a toujours comparés, donc.
C'est vrai.
Ouais, mais en même temps, c'est aussi l'attitude de Raikkonen, c'est aussi ce qui nous plaisait il y a quelques années. C'était, voilà, son côté ne pense qu'à la victoire et le reste.
Oui, mais là,
les autres places, ils s'en foutent. Et non, mais voilà. Mais en même temps, c'est voilà, ce qui nous plaisait chez lui, c'est il y avait que la victoire qui l'intéressait, les autres places ne l'intéressaient pas. La seule année où les places sont intéressées, il a été champion du monde. Bon, maintenant, on peut pas non plus reprocher à Raikkonen de pas s'intéresser à autre chose que la victoire. Il peut pas gagner, bah, à la limite, comme sa saison, lui, elle est foutue, il pourra pas se battre pour le titre, ça l'intéresse pas. Il fait rien. C'est vrai que au sein de la Scuderia, ça se fait pas et que c'est irrespectueux envers l'équipe, envers les fans. Mais bon, en même temps, c'est une qualité qu'on a toujours connue chez lui. Il y a rien qui change chez Raikkonen, hein. Il est toujours le même, hein. Ce qui change, par contre, ce qui change en positif chez Alonso, c'est qu'on voit un Alonso beaucoup plus mordant, beaucoup plus sympathique aussi, beaucoup plus humain, je trouve, cette saison et déjà la saison dernière.
Oui.
Enfin, il fait une belle course, mais c'est une meilleure course que Rosberg et Massa, par exemple. Mais c'est pas qu'on voit.
En termes de panache.
Parce que pourquoi le panache? Ouais. Parce qu'on le voit remonter vers les Brown qui sont en difficulté. En même temps, c'est les Brown, elles ont les pneus froids, etc. Bon, bah voilà, entre guillemets, remonter sur les Brown, c'est pas non plus super difficile à ce moment-là, être dans cette course-là.
Rosberg, il a commencé il était 15e sur la grille.
Ah ouais, d'accord.
Il a fini 4e.
Ah bah, alors dans ce cas-là, oui, belle course de Rosberg. Dans ce cas-là, oui, effectivement, belle course de Rosberg. Donc voilà, sur la suite de la grille, je sais pas si vous avez noté des choses intéressantes.
De la même façon, Glock qui était parti 20e, il finit 9e.
Ouais, quand même.
Ouais, mais Glock, il est parti avec le plein, il a fait qu'un arrêt.
Ouais, non mais attends.
Et alors là,
quoi. Et alors, ouais, mais quand même, il part 20e, il a une Toyota qui, depuis le début de saison, est une bonne voiture, il fait que 9e. Sur l'ensemble du week-end, c'est pas non plus un super grand prix, quoi.
Non,
il casse pas des briques.
Il y en a, ils partent 20e en fin de course, s'ils n'ont pas abandonné, ils sont que 15e, 16e ou 14e. Voilà, c'est juste pour dire voilà, qu'il avait fait un truc bien.
Ouais, c'est bien, ouais, c'est bien.
Voilà.
Vous avez remarqué comment je suis blasé, moi, à partir de la 8e place.
Voilà.
Je m'en fous. Donc, pour la suite, on peut peut-être parler des Force India qui ont fait un super week-end. Ouais. Les deux, hein.
Ouais, ouais, tout à fait.
Sutil qui a été très bon en qualif, il s'est lancé 7e et puis... il a été à un moment donné de la course 2e.
Oui.
Alors j'avais noté moi sur mes petites notes, c'est 2 ans après Winkelhock qui mène la course avec la Spyker. Est-ce que Sutil peut ouais très bon texte dans le livre 2007 qu'on vous conseille d'acheter sur enzof.com.
Ah.
Le premier texte d'ailleurs que j'ai écrit pour le livre.
Ah.
Et moi ouais, c'était celui-là.
D'accord.
Et donc je me suis dit ouais, est-ce qu'il va mener, puis en fait non, il a pas mené, mais ça aurait mérité parce que franchement le week-end des Force India était super.
Écoute, pourquoi pas l'an prochain puisque Raikkonen sera à la retraite.
Non, pas chez Ferrari quand même.
Bah Sutil en coéquipier de d'Alonso.
Non.
Ce que je veux dire, c'est que il a quand même son chat noir, Sutil.
Oui, c'est vrai. Il aura peut-être du bol. C'est vrai que là, malheureusement...
Là, je veux dire, aujourd'hui, Sutil, il est allé, dans un magasin de sport. Il a acheté une belle cible de fléchette, une belle photo de Raikkonen. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, ça fait quand même deux fois.
Non, mais on notera quand même la classe de Raikkonen qui a dit, bah, c'est ni sa faute à lui, ni de ma faute à moi, c'est un accident de course.
Non, c'est un accident de course.
Et qui a dit, je m'excuse pour lui parce qu'il faisait une belle course. Donc voilà, sur le comportement en piste, on peut peut-être reprocher certaines choses à Raikkonen. En dehors de la piste, c'est quand même un mec qui est super sympa, qui reconnaît ses erreurs contrairement à Weber, par exemple. Et donc, il n'y a pas que Sutil qui a brillé. Généralement, c'est soit Sutil, soit Fisichella. Et là, Sutil et Fisichella a brillé, puisque Fisichella a fini 12e, je crois, ce qui, en termes... Alors là, pour le coup, c'est un mec qui fait pas une super place à la fin. Mais quelle course, quoi. Il remonte sur les mecs avec la voiture qu'il a. Là, pour le coup, je trouve ça impressionnant.
Bah, on en a déjà parlé, hein, de la Force India. La Force India, cette année, c'est plus du tout la même chose...
C'est les Toro Rosso de l'an dernier, quoi.
Ouais.
Oui. Peut-être un niveau un peu en dessous, mais
ouais, quand même,
en
ouais.
potentiel, oui, équivalent. Moi, je pense que c'est Toro Rosso cette année. C'est, moi, je trouve Toro Rosso cette année moins forte que Red Bull, que Force India. Force India a eu moins de chance, mais Toro Rosso est moins fort. Et Force India a ce petit potentiel qu'avait l'année dernière Toro Rosso, à savoir quelques petits coups d'éclat. Ce qui leur manque, c'est les pilotes. Hein. L'année dernière, Toro Rosso, ils avaient fait tel. Là, cette année, ils ont Fisichella, voilà. Qui n'est pas forcément une ancienne demi-gloire de la F1. Et puis, ils ont Sutil, qui est bon, qui est très bon dans certaines conditions, la pluie et les
circonstances. Là, en plus, gens.
Mais,
on n'a pas eu la pluie, mais les conditions étaient fraîches et humides.
Ça, il aime bien Sutil pour ça.
Ouais.
Ah oui, c'est clair.
Et puis dernière chose qu'on peut noter sur la course, bah, c'est la dernière de Bourdais. On a déjà parlé de Bourdais.
On n'est pas sûr,
mais bon, voilà. ça.
Il y a quand même une grosse déception pour Hamilton, parce que en qualif,
Oui, tiens, j'ai même pas noté.
Faut dire qu'il a pas eu de cul, quoi.
Non. Faut pas me dire qu'il a pas eu de cul. Ah non, faut pas me dire qu'il a pas eu le cul, City. Hein,
il a été trop gourmand.
Voilà.
Ouais, ouais.
C'est le syndrome des grosses écuries cette saison. On a eu le cas avec Ferrari qui, en qualification, sentait qu'ils étaient pas mal, donc ils squeezaient les qualifications, ils se contentaient d'un temps en disant là on va jouer la qualif, on va jouer la pole. Sauf que non, vous avez un mauvais temps, donc voilà, faut jouer à fond. Ils ont aussi fait ça en course une ou deux fois où ils ont été un petit peu trop optimistes et ils ont perdu des places ou ils ont fait des erreurs. Et puis bah là, Hamilton, ça y est, il se sent plus pissé, quoi. Il est troisième à l'approche du premier virage. Il se dit ouais, je vais y aller. Il redonne un coup de kers. Il se gaufre au virage, mais joli. Et franchement là, pour le coup, c'est entièrement mérité. Parce qu'il se pourrit sa course alors qu'il est. Il doit se dire, mon objectif c'est le podium. Je suis cinquième, j'ai le kers, j'ai une bonne quantité d'essence. Les Browns devant vont passer derrière moi parce qu'elles sont sans doute en trois arrêts. Donc c'est soit l'équipe lui dit pas, soit lui pète un câble à ce moment donné, mais il s'en plus pissé, il se dit voilà, je vais gagner la course. Non, tu vas aller sur le podium. Oh,
je sais pas s'il pense à ça direct.
Oh, il y pense. À la bord du premier virage, quand il est troisième, il se dit voilà, si je suis au premier virage, j'ai ma chance, je peux taper la course. Parce que je pense qu'Hamilton, à un moment donné, il se met à compter sur la pluie, il se dit sur la pluie, je suis bon, les niveaux se nivellent. Donc je pense qu'à ce moment-là, il se met dans cet état d'esprit, il se dit là, je peux peut-être jouer la course. Ouais. Et puis en fait, non, il se vautre magistralement. Ça m'a fait penser à ce qu'il avait fait l'année dernière au Japon.
Ouais.
Pareil, voilà.
C'est confiance. Tout.
Alors, pour le coup, on a accusé Weber. Derrière, on a reproché à Weber d'avoir été un petit peu trop avec Hamilton. Bah non, Hamilton qui se gaufre, il se gaufre.
Et Hamilton qui est le seul pilote à finir à un tour.
Ouais, mais il a crevé. C'est pas significatif, ça. Parce qu'il a crevé, il a dû refaire tout le tour avec son pneu arrière. En plus, il était très lent, je trouve, pour revenir dans les stands.
Ouais.
Donc.
Non, mais ça veut dire
que. D'ailleurs, quand il est revenu dans les stands, il y avait la voiture de sécurité derrière lui.
Ouais, c'est ce que ça m'a interpellé.
Ils étaient prêts à la faire.
C'est que en fin de course, finalement, c'est relativement serré. Parce qu'on a 17 voitures dans le tour.
Ce qu'il faut quand même se rappeler pour la voiture sécurité, c'est quand même c'est le même circuit où il y a deux ans, on avait sorti du bac à gravier Hamilton à coup de
grue.
Donc est-ce que par hasard on n'a pas mis la voiture de sécurité juste derrière comme ça pour veiller sur le petit chouchou de Mercedes? C'est quand même la première fois moi que je vois un mec se faire accompagner avec la voiture de sécurité derrière.
Non, je pense que comme il était très lent, je pense qu'elle venait de démarrer et. Au cas où il y a un problème où les autres arrivaient trop vite derrière, ils auraient tout de suite mis...
Ouais, plutôt.
Ouais, mais généralement, quand ils mettent la voiture sécurité en piste, ils mettent tout de suite safety car et puis... ouais, t'imagines, toi, faire tourner la voiture de sécurité sur le circuit alors qu'il y a des F1 qui courent à 300 km/h à côté. Pourquoi je trouve ça un peu... Mais toutes les explications sont logiques. Hein. Donc, l'ADR de Bourdais, peut-être.
Peut-être.
Par un pépin mécanique.
Peut-être pas.
Ouais, peut-être pas, mais bon, peut-être. Mettons-nous dans cet état d'esprit, puisqu'aujourd'hui, des indices laissent à penser que c'était sa dernière. Donc, moi, en tout cas, il y a un signe. Quand il a abandonné, il est allé voir les mecs du Muret. Et il a discuté, il s'est entretenu deux secondes avec Giorgio Ascanelli, qui est l'ingénieur chef de Toro Rosso. Et Ascanelli avait l'air extrêmement ému. Alors que ce mec soit très ému en tapant sur l'épaule de Bourdais, alors qu'on est quand même en pleine course, qu'il y a encore Buemi qui est en piste. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, Bourdais, c'est fini, c'est sa dernière course. Lui le sait, Bourdais le sait, et il veut pas le dire pour le moment. Mais moi, à ce moment-là, j'étais convaincu que c'était fini pour Bourdais.
Mais on y est tous.
Oui, voilà. Donc voilà, rien à dire sur sa course, à part qu'il a abandonné.
Voilà.
Ok.
Non, mais bon.
Il a pas fait un bon week-end, quoi. Donc,
Oui, voilà.
Il a rien fait, c'est tout, quoi.
Mais en même temps, est-ce que psychologiquement c'est facile de préparer un week-end, de courir, en sachant qu'on est sur un siège éjectable, sachant que tout le monde en parle. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une bonne course dans ces conditions-là? J'en doute. C'est là aussi où c'est entre guillemets de la part des journalistes et pas très classe. Voilà. On passe à nos rubriques favorites, à moins que vous ayez envie de revenir sur un truc particulier dans la course.
Non.
Non.
Non, particulièrement.
Donc on fait tout de suite un sondage du fait marquant de la course. On va rappeler le dernier sondage.
Ouais, ça va.
Et bien sûr, je l'emporte une deuxième fois consécutivement.
Vous avez triché, c'est pas possible.
Avec 9 votants. Alors. Oh. Et Enzo, si tu veux, je vais publier sur le site les statistiques et deux fois, j'ai Enzo qui vote.
Non, ça c'est pas possible.
Je te jure, deux fois, j'ai écrit le nom Enzo.
Mais tu sais bien que c'est pas possible.
Mais je te jure, deux fois, j'ai écrit le nom Enzo.
Mais c'est parce que... c'est parce que je me connecte avec deux postes différents.
Mais ouais, mais deux fois, il y a écrit Enzo.
Oui, bah je suis un peu boulet, quoi.
Voilà. Donc, on voudrait même te retirer une voix et dans ce cas-là... Dans ce cas-là, tu serais dernier.
Ah.
Donc, ça s'est encore une fois joué à peu, hein, puisqu'il n'y a eu que 9 votants. La question était donc la traditionnelle question. Quel est, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Grande-Bretagne? Les résultats sont dans l'ordre. La domination des Red Bull que j'avais proposé, 44% des voix. Voilà. Ouais. Je remonte. Je suis sur 3 victoires de suite, hein. Si on compte la victoire avec Shinji, ça fait 3 victoires de suite. Est arrivé en deuxième position, on ne sait pas comment, le burn-out d'Hamilton, le burn-out d'Hamilton après la course, proposé par Enzo, qui a voté deux fois.
Ouais.
Donc vous tiendrez, hein, deux fois pour 3 votes, hein, voilà.
Voilà.
Merci à la personne qui n'a pas voté, enfin, qui a voté, comme Enzo, mais qui a voté pour de vrai. Et puis, dernière position, les difficultés de Jenson Button, avec deux voix seulement.
Ouais.
Bon, j'engage tous les auditeurs à voter pour moi, sinon j'arrête de faire des dessins.
Ça va
j'arrête
pas
de participer à cette émission.
Ça va pas les changer, hein.
Oh, le... bah, c'est...
Alors, l'effet marquant de la course qui commence.
Ah, alors,
on va faire comme la dernière fois, le dernier, donc Shinji.
Ah, mais non, attendez, il faut que je cherche mon papier là. En plus, j'ai pas de lumière dans ma chambre, alors.
Ah, vas-y, cherche la lumière.
Attendez.
Ça va, Enzo?
Oui, oui.
Voilà.
Alors, Shinji.
Bordel dans ma chambre.
Ah, oh, on dirait la mienne. Que proposes-tu?
Je propose le drive-thru de Weber.
Le drive-thru de Weber, ok.
Ouais.
Ça, c'est le fait marquant, c'est ça?
Ouais. Alors, attention, Alonso va nous sortir un truc genre... Alors, généralement...
Alonso.
Non, mais à chaque fois, Enzo s'appelle Alonso. Alors, Enzo, on reste sur le burn-out d'Hamilton. On reste sur Button qui fait à pied jusqu'au podium.
Et ça avait gagné,
donc, qu'est-ce qu'il va nous trouver cette fois-ci?
Attention.
Mais pourquoi vous... Ouais.
M'attends à un truc, un truc genre, tu vois, Weber qui saute de sa voiture alors qu'il a la jambe cassée et tout. Voilà, je me disais, ouais, il va nous faire... C'est le symbole du mec qui, tu vois, malgré la blessure, il se donne à fond et tout. Mais non.
Le mieux, c'est que tu commences.
Bah non, on va faire dans l'ordre.
Non, vas-y.
Que je commence, bah je mettrai la grosse cagade d'Hamilton. Voilà, Hamilton qui termine sa course.
Tu peux justifier un peu. Pendant ce temps, je trouve une idée.
Mais j'ai déjà justifié. Bon bah, en attendant qu'Enzo nous trouve quelque chose à dire pour le fait marquant du Grand Prix d'Allemagne, et ben on va vous proposer un petit intermède musical pour vous faire patienter. Et puis dès qu'Enzo a trouvé, on reprend directement l'antenne.
Ah, il faut que je trouve une idée.
Mais c'est pas préparé tout ça. Voilà.
Non, mais j'en avais plus.
La course de Rosberg.
Non, le coup de gueule de Bourdais.
Tu sais que j'avais noté Physico qui dépasse Alonso. Parce qu'à un moment, Physico oui, c'est vrai, dépasse tiens. Alonso.
Ok, vite fait les pit stats, la rubrique que tout le monde nous envie. Hein. Donc, en moyenne, les pilotes ont passé 24 secondes 478 au stand pendant ce Grand Prix. Celui qui a passé le plus de temps au stand, c'est Adrian Sutil, qui est passé 3 fois et qui a passé un total de 1 minute 15 498. Mais dans l'eau, il y a effectivement la réparation de son aileron avant. Et on a Timo Glock qui a passé, lui, lui a passé le moins de temps, avec 24 secondes 809, mais il n'a fait qu'un seul arrêt au bout de 30 tours. Belle performance d'ailleurs, parce qu'un arrêt en 24 secondes pour juste faire un plein, c'est pas mal. Et à noter que vraiment celui qui a passé vraiment le moins de temps au stand, c'est Bourdais, puisqu'il n'a pas ravitaillé, puisqu'il a abandonné.
Donc zéro.
En moyenne par arrêt, c'est Button qui a été le plus rapide au stand. Ces trois arrêts, il les a réalisés en moyenne par arrêt 23 secondes 217. Alors, en réalité, si on compte vraiment le nombre d'arrêts, c'est Weber qui a passé le moins de temps au stand. Mais je ne peux pas compter son drive-thru comme un arrêt au stand.
Bah non.
Ah bah non. Hein,
parce que voilà. Donc j'ai décompté l'arrêt au stand et Weber qui a passé donc 14 secondes 009 dans son drive-thru. Donc on saura combien ça coûte. Ouais. Weber, il est en milieu de classement. Celui qui en moyenne a été le plus lent au stand, c'est Hamilton. Avec deux arrêts au stand et qui a passé 27 secondes 205
dans le premier.
Voilà, dans le lot, il y a le premier a été assez long. Faut noter que Sutil est avant dernier, mais là aussi parce qu'il y a un problème et donc vraiment le dernier à la régulière parce que c'est vraiment les arrêts au stand purs et bruts. C'est Heidfeld. Hein, en 24 903. Donc on voit bien là que Sutil et Hamilton, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes au stand. Pour le podium, aucun changement, toujours Trulli devant Glock et Kovalainen. Vous verrez ces trois hommes volants sur le site du SAV www.sav.fr.nf. Ceux qui iront sur le site comprendront.
Ouais.
Alors, ensuite, le classement du SAV, qui n'est pas à jour, mais je vais changer ça.
D'accord.
Oui, ça serait bien.
Il est même pas à jour sur 9 feuilles en plus, dis donc, la vache.
Bah, Weber.
Weber, ouais.
Ouais, bah.
Il a quand même dominé de la tête et des épaules.
Ouais. Qui d'autre derrière
Je pensais à Alonso.
Moi, Alonso, je l'aurais mis en troisième. Mais j'aurais plutôt mis un mec comme Fisichella ou un mec comme Sutil.
Sutil, alors.
Sutil.
Sutil, ouais.
Pour la qualif et pour.
L'ensemble de son œuvre.
Sutil est donc Alonso troisième avec 3 points. Non, bah dis donc, il n'y a que des nouveaux là-dedans. Enfin non, il n'y a que des vieux briscards. Donc ça nous fait 12. Donc le classement provisoire, puisque... Voilà, vous irez vérifier sur le...
Sous réserve de modification.
Voilà. Button, toujours premier avec 21 points. Vettel, toujours deuxième avec 16 points. Weber remonte. Hein, il reste troisième, mais il remonte au terme de points, puisqu'il a 12 points. Glock et Barrichello possèdent chacun 5 points. Ils sont quatrième. Sixième, Alonso et Massa sont ex aequo ou un truc dans le genre.
Avec 4, quelque chose comme ça.
Avec 4. Ouais. Sutil est en pleine progression.
Aussi.
Il avait
aussi avec 4.
Là, il avait marqué un point. Et puis pour le reste, on vous laissera aller voir sur le site www.savf1.fr.nf.
Ouais.
Shinji, tu nous fais les championnats ?
Les pilotes. Jenson Button est toujours en tête avec 68 points. Il est suivi de Sebastian Vettel.
Oui, mais par contre, là, par exemple, Button, ses vacances seraient moins longues.
Ah. Bah, il sera encore en tête pour deux grands prix.
Voilà.
Il a deux grands prix d'avance, donc ça fait Hongrie et Grand Prix d'Europe.
Qui en profite.
Voilà. Sébastien Vettel, 47 points.
Voilà.
Et la plus
21 grosse, points.
Voilà, plus que 21 points. Et ce 21 points, ça devient jouable.
Oui, ça devient jouable. Ça relance l'espoir. Mais attention, on n'est pas mort.
Voilà. Oui. Mais là, c'est Weber qui est troisième avec 45 points et demi.
Voilà.
Donc il est que à un point et demi derrière Vettel. Donc ça va être dur, hein, pour les stratégies de course.
Ouais, bon, en même temps, il faudrait que Vettel se mette à regagner vite. Ou à reprendre vite fait le dessus sur Weber, et surtout que Weber ne gagne pas. Si Weber commence à gagner une ou deux autres courses, là ça va devenir très compliqué pour Red Bull.
Et quatrième, donc, Barrichello, 44 points, donc lui il est un point et demi derrière Weber.
Voilà, Barrichello qui était deuxième en arrivant au Grand Prix, qui finit quatrième.
Juste pour info, Barrichello il a 44 points, Massa qui est cinquième, il en a 22.
Voilà.
Chez les constructeurs, Brown Mercedes est toujours leader avec 112 points.
Ah, mais maintenant, ça devient serré. Hein.
Red Bull Renault a 92,5 points. Ça fait donc 19 points et demi. Donc là encore, le doublé, c'est 18 devant. Points. Ils sont toujours devant. Mais là encore, ça se rapproche. Troisième, Toyota. Alors,
mais plus pour longtemps.
34 points et demi. Et sans doute plus pour longtemps, puisque Ferrari... Ils ont quand même réussi à 32 points.
Et moi, je vous dis, Ferrari va finir sur le podium.
Il y a des chances.
Malgré ce que dit Williams, parce que Williams, ils sont déjà à 11 points et demi derrière Ferrari, et que les points pour lesquels se battent les deux équipes, c'est des points, c'est des petits points, c'est 4-5 points maximum. Donc,
Et puis, Williams, ils n'ont qu'un pilote, quoi.
Voilà, et Ferrari en a 1,5.
Ouais.
1,25. Oh, t'es méchant.
Méchant.
Alors, et on donc, va passer. Oui.
Oui, non.
De quoi?
Non, il n'y a pas de changement.
Il y a pas de.
Il y a pas de changement à la suite. Donc Williams, McLaren, Renault, BM et Toro Rosso.
Bah, à part Renault, voilà, qui remonte sur McLaren.
Ouais.
McLaren qui loupe vraiment le coche parce qu'ils ont quand même l'occasion de remonter sur Williams. C'est de.
Ouais, ils avaient une belle occasion pour ce Grand Prix.
C'est pas sûr que ça soit nouvelle d'ailleurs. On passe au drive-through of the weekend. Alors, bon, moi, j'en... Qui veut commencer? Qui en a un?
Moi, j'en ai un, mais il est tellement évident après tout ce qu'on a dit.
Donc,
c'était F1.
Voilà. Mais vous savez quoi? J'ai envie qu'on fasse une sorte de drive, de super drive-through.
Ouais, c'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire qu'après tout, si tous les trois on est d'accord, qu'on dise, voilà.
Le problème c'est que moi je suis pas d'accord.
Non mais t'es un chieur toi.
Non mais en plus, enfin, TF1 on en a déjà parlé au début quoi. On a déjà dit ce qu'il fallait dire. On a été même à la limite de réouvrir le Malbranche Stop and Go donc. Après non, c'est vos drive-thru. Mais moi disons que j'ai un drive-thru auquel je tiens donc.
Ah mais vas-y.
Donc moi je vais mettre un drive-thru à un pilote qui n'est pas encore en Formule 1, mais qui pourrait l'être dans les prochaines semaines. C'est James Alguersuari, enfin Rémy Alguersuari.
Je veux dire celui qui a ouvert un peu trop grand sa gueule là.
Voilà, celui qui n'a aucun palmarès et qui est déjà en train de dire qu'il va faire mieux que Bourdais, qui à peine annoncé comme troisième pilote Red Bull disait déjà qu'il allait piloter pour Toro Rosso avant la fin de l'année. Celui qui ne doit entre guillemets sa place qu'au pognon de Repsol parce que pour le moment à 19 ans il n'a pas encore suffisamment de palmarès. Ça n'est pas sans me rappeler un certain Christian Klien qui était arrivé en Formule 1 en disant d'ici la fin de saison, je vais taper Schumi.
Bon,
on sait ce que ça a donné. Hein. Il l'a jamais fait. Piquet aussi, hein, qui a dit qu'il ferait jeu égal.
Qui boufferait Alonso et donc, tout.
Voilà, c'est contre lui, mais ça pourrait aussi être généralement.
Qui a dit qu'il allait bouffer Alonso.
Oui, mais lui, il l'a fait.
Il l'a fait, lui.
Et en même temps, Hamilton, il est arrivé en ayant gagné partout où il était passé.
Ah, c'est clair.
Là, Al-Ghursari, il a gagné en F3 britannique. Bon, ça ne va pas critiquer la F3 britannique, mais c'est que le premier échelon d'un long parcours pour un pilote. Et puis, en World Series by Renault, Shinji nous l'a dit, il est huitième. Bon, il n'y a pas de quoi casser des briques. Surtout, parlant d'un type, il faut quand même avoir un petit peu de respect pour envers les autres pilotes. Je pense qu'avoir du respect pour un pilote, on l'a dit, c'est en piste. C'est pas le taper, etc. Mais c'est aussi en dehors de la piste. Et je pense qu'il y a une certaine classe, surtout dans une équipe comme Toro Rosso, qui est susceptible de changer assez régulièrement ses pilotes. Il y a une certaine classe à avoir. On ne tape pas sur les ambulances. Et puis, on ne dit pas qu'on va faire mieux. Ça ne pourra pas être pire que Bourdais. Alors, cette phrase-là, ça ne pourra pas être pire que
Bourdais. Moi, je suis complètement contre ton drive-thru.
Ah bon? C'est un contre-drive-thru?
Mais oui, mais parce que justement, c'est ce qu'on reproche à Bourdais de pas avoir assez d'ambition et puis de se plaindre et machin. Au moins, lui, il a les dents longues et il veut y aller. Et...
Non, non.
Il dit
c'est bien.
Qu'il va...
Non. Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait de l'ambition, etc. C'est nécessaire d'avoir l'ambition. Mais il faut avoir aussi l'ambition qui va avec les moyens qu'on a pour le moment. Ce gamin là parce qu'on va dire ce gamin, il a 6 ans de moins que moi, donc ce gamin là il a rien prouvé. C'est un nom que moi j'entends depuis quelques temps parce qu'effectivement il est annoncé comme l'un des futurs pilotes de Formule 1, mais aujourd'hui à 19 ans il est très loin d'avoir le potentiel d'un Vettel, il est très loin d'avoir le potentiel d'un Buemi, et donc rien ne lui permet de pouvoir prétendre ne serait-ce que faire mieux ou aussi bien que Bourdais. C'est un peu limite. Faut pas trop faire de mariole. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est direct, et je l'ai pris en grippe, tout ce que je souhaite, c'est qu'il se vautre. C'est terrible à dire, mais tout ce que je souhaite, c'est qu'il se vautre. Tout comme c'est vautré Clean, c'est vautré en Formule 1. Il fait une très belle carrière en endurance. Je le respecte en endurance, parce que là, en endurance, il est pas venu avec ses gros sabots, mais il est venu, et puis il a commencé à faire ses preuves, il a roulé avec Peugeot, et avec Peugeot, il a fait des bonnes courses, il a gagné quelques courses. Et ben là, que Al-Ghursari fasse pareil, qu'il vienne le profil bas en disant voilà, un peu comme a fait Sutil, il est arrivé, on n'a pas parlé de lui, un peu comme a fait Buemi, il est arrivé en disant moi je suis là pour apprendre, je vais voir ce que je ferai, si je fais des bons résultats, mais attention, je suis pas Vettel. Voilà, Al-Ghursari, il est encore moins Vettel que Buemi. Donc voilà, pour le moment, qu'il se taise et qu'il fasse ses preuves si jamais il vient en Formule 1. Voilà, à vous. Vous pouvez faire votre deux tiers de drive-thru collectif. Mais ça serait mieux, étant donné qu'on en quitte quand même pas mal de drive-thru un peu merdique depuis quelques semaines. Ça serait bien qu'on en ait des biens, quoi. Je rappelle quand même qu'en Angleterre, on a quasiment eu aucun drive-thru, qu'on reste sur Monaco, qui est pas une grande fierté pour moi, et que je crois qu'on avait eu des trucs un peu merdiques aussi. Donc.
Ouais. Bon, pour ne pas dire TF1, écoute, je dirais bien, Red Bull. Pas l'écurie Red Bull en soi, mais, Le transfert de technologie, Red Bull Engineering et tout ça. Je me dis, mais qui vend Toro Rosso, quoi?
C'est en pourparler, ouais, avec Epsilon.
Ouais, mais alors, la voiture a 6 semaines de retard. C'est la seule voiture, tu trouves, qui n'a pas de double diffuseur. Même la Force India, elle a un double diffuseur.
Mais en même temps, c'est un partenariat qui leur a profité l'an dernier, hein.
Non, mais que ça leur a profité l'an dernier, qu'ils aient les évolutions après, ça, c'est compréhensible. C'est vrai que Red Bull joue le championnat, c'est normal qu'ils pensent d'abord à Red Bull. Mais là, j'ai l'impression que c'est limite s'ils laissent pas l'écurie à l'abandon, quoi.
C'est pas faux.
Hein. Mmh. Après, je l'ai déjà dit, comment tu veux exiger des résultats de tes pilotes quand déjà t'as une voiture qui, à la base... Actuellement, je pense que c'est la plus nulle, la moins bonne. Oh non, disons-le franchement, la plus nulle des voitures.
C'est vrai. Et tout donc, à fait, Shinji. On combat avec toi.
Non, mais il y a une espèce de gâchis, quoi. Ça m'énerve. Voilà.
Bah, c'est vrai que aujourd'hui, ça fait un peu office de d'écurie comme était Minardi à une époque. Sauf que Minardi, ce qui était génial avec Minardi, c'est qu'il y avait aussi tout ce qu'on parlait pas, c'était ces ingénieurs qui avaient des petites idées parce qu'ils avaient de petits moyens.
Oui.
Et que leurs idées, elles étaient piquées par les mecs de chez Ferrari parce que ils avaient trouvé ça super génial et que eux avaient le moyen d'aller à fond au bout de l'idée. Là, malheureusement, c'est vrai que chez Toro Rosso, on le retrouve pas. Pourquoi pas chez Force India? Force India a quelques petites idées qui pourraient être piquées par des grandes équipes. Braun, Red Bull.
C'est même pas une équipe B, quoi. Je veux dire, même Force India, qui n'est pas vraiment une équipe B, bah ils font plaisir à voir. Eux, bon ben, on espère rien quoi.
Bah, on voit en fait les limites du partenariat complet châssis moteur.
Ouais.
Et on voit en au contraire l'avantage avec Braun et avec Force India. On voit l'avantage effectivement pour un motoriste de s'associer avec plusieurs petites équipes et de voir qu'effectivement bah les équipes travaillent et qu'il y a un travail. On prend les trois voitures motorisées par Mercedes, il y en a aucune qui se ressemble et les performances sont totalement différentes.
Ouais.
Alors qu'elles ont à la base le même matériel à leur disposition. C'est ce qui d'ailleurs serait assez intéressant. C'est là où on se dit que peut-être une Formule 1 avec des équipes qui ont des pièces qui sont fournies comme ça avec des partenaires et qui après ont juste à se démerder sur l'aéro, etc., ça pourrait être intéressant.
Moxley sort de ce corps.
Ça s'appelle une formule monotype.
Non, parce que, oui, enfin, formule monotype, t'as quasiment pas de développement sur la voiture. Ouais. Mais si tu dis aux mecs, vous avez tous le même moteur, tous la même boîte de vitesse, tous le même KERS, etc., lâchez-vous sur, sans bride, mais lâchez-vous sur l'aérodynamique en suivant quelques gabarits, mais un peu comme ce qu'on faisait les dernières années, on va voir des différences qui vont se faire sur l'aérodynamique. On aura une Formule 1 qui sera beaucoup plus rapprochée, beaucoup plus spectaculaire, et on aura quand même des F1 qui vivront parce que on aura des ingénieurs qui bosseront, etc.
C'est bien ce que je suis.
Je suis contre les formules type GP2 ou Super League Formula où c'est juste des préparations à partir de voitures. Moi, je suis contre des formules de préparation et c'est ce que veut Mosley. Il veut des formules où on amène le matériel et puis c'est au mec de juste faire les réglages. Non, là, c'est nul.
Alors,
Enzo. Eh ben, moi, ça va être sur les équipes, leur façon de manager leurs pilotes.
Ouais.
Et, soit t'es clair et puis tu dis bah oui effectivement on va se séparer d'un pilote, soit tu fais un démenti clair aussi, tout aussi clair.
Ouais.
Mais laisser un doute planer comme ça, de toute manière ça sert ni l'équipe ni le pilote.
Mais c'est vrai qu'en plus, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment eu l'impression pendant ce week-end que Bourdais savait que c'était sa dernière, que Red Bull le savait, et qu'il gardait le mystère pour pouvoir l'annoncer dans le calme. Je pense que Bourdais aurait peut-être passé un meilleur week-end et aurait été moins tendu si tout le monde avait été au courant, que tout le monde avait eu la fameuse réponse à sa question, que oui, effectivement, c'est mon dernier Grand Prix. Basta. Rien à dire. Voilà, c'est mon dernier. Laissez-moi le vivre. Et puis, je pense que les gens auraient été beaucoup plus respectueux alors que là, ils se sont acharnés sur lui.
Ouais.
Et tout très bon. Vous voyez là quand on cherche.
Ouais.
Donc pour boucler cette émission, un petit avant-goût de la Hongrie, pronostic.
Vettel.
Oh, les Brown.
Ouais, moi je dis Button. Je suis désolé, mais il va faire chaud.
Et pourquoi pas Barrichello?
Parce que Barrichello, ils vont lui demander de perdre.
Mais non, mais le truc c'est que quand je dis Brown, je veux plus dire Button parce qu'à force.
Donc en pronostic, c'est donc moi Button, pour Enzo c'est Vettel et pour Shinji c'est Barrichello, c'est ça?
Ouais.
T'es sûr?
Mais oui, mais par exemple, il est deuxième, tu sais comment ça marche en Hongrie. Ils peuvent pas se doubler. Genre, il est deuxième, le premier est un pépin technique, genre de truc qui arrive super souvent en Hongrie. Et puis boum, il récupère le... C'est ce qui est arrivé l'an dernier pour Kovalainen.
Et puis là, Button est troisième, et là, on dit à la radio de Barrichello, attention, il faut que tu repasses au stand, et puis Button, il est bien premier. Alors, on va finir avec le concours top pop position, hein. Concours qui a eu deux réponses cette semaine.
Oh.
Ouais. On va rappeler, la question. Shinji.
La question. Quel pilote n'a pas quitté le podium du Grand Prix de Grande-Bretagne entre 2008 et 2009?
Et Enzo, la réponse, c'était...
Il a dû se faire chier pendant un an, quand même, de rester sur le podium.
Faut avouer
qu'on place.
On l'a pas trop vu, du moins la saison dernière. Et donc, c'était...
C'était Rubinho.
Ah, Rubinho, là. Rubinho, là. J'en ai pensé, je vais le faire le lien, il s'appelle Rubinho, là. C'est terrible.
À chaque fois, sur la troisième place.
Et d'ailleurs, on peut noter que Weber, qui a bien tourné à Silverstone, puisqu'il a fini deuxième, avait déjà bien tourné l'an dernier, puisqu'il avait, il s'était qualifié, je crois, troisième ou quatrième. Non, en deuxième, il était en première ligne et qu'il s'était foiré, en premier virage. Enfin, au démarrage. Encore une fois. Voilà. Donc, nous avons deux candidats qui ont répondu et correctement. Nous avons, bien sûr, Jérôme, hein, notre, nouveau fan numéro un. Et nous avons le retour de Maël.
Oh.
Voilà. Maël, qui nous a envoyé un petit message, parce que apparemment le formulaire de contact ne fonctionnait pas très bien, donc elle pouvait pas répondre. Mais là, elle a pu répondre.
Ah, l'excuse bidon. Ouais.
Puisqu'elle a pu fouiller dans ses anciens mails et retrouver le mail du SAV. Eh, hey, trop forte.
Bravo.
Donc, tout le monde a répondu, la bonne réponse, Ruben Barrichello. Tirage au sort, donc on fait un tirage au sort.
C'est à Enzo cette semaine.
Donc, j'ai la case 3 et la case 4.
Entre 3 et 4.
Alors, entre 3 et même 9, allez, 3 et 9, voilà. Entre 3 et 9, qu'est-ce que tu choisis?
Ben, 9.
Eh ben, c'est Mel qui l'emporte, et Mel remporte donc un magnifique magnète du Grand Prix. Alors, attends, comment on est au Grand Prix de Nürburgring? C'est le Grand Prix d'Angleterre, donc personnalisé.
Ah, ben,
oui, c'est la question du Grand Prix d'Angleterre. Faut
ah,
suivre.
Il est moche, celui-là.
Non, il est bien, celui-là.
Il est collecteur parce qu'il n'a pas le bon nom de Grand Prix.
Voilà, c'est celui-là qui est collecteur. Parce que, en fait, Jérôme, à qui je n'ai pas encore envoyé, mais que je vais l'envoyer, je pense, mardi, mercredi.
Il croit pas. Depuis 3 semaines, tu as toujours.
Ah ouais, mais, non, mais je me suis fait opérer entre temps, Enzo. J'ai une opération lourde à l'oreille et tout. J'étais en convalescence, à moitié dans mon lit, moitié mourant.
Oh, ça va alors.
Ouais, tu vois, je me suis repris vite exprès pour le SAV. Hein. Donc voilà, donc Maël, on t'envoie ça mercredi, hein, voilà, puisque demain c'est 14 juillet. Et puis voilà, on vous invite bien sûr tous qui nous écoutez, donc Maël et Jérôme, s'il vous plaît, à participer au prochain concours Top Opposition qui vous est présenté par Enzo.
Venez d'écouter le SAV de la F1 spécial Grand Prix d'Allemagne. Répondez maintenant à cette question et gagnez un magnifique magnet collector du SAV. Quel journaliste de TF1 s'est fait envoyer sur les roses par Sébastien Bourdais après son abandon? Envoyez votre réponse en utilisant le formulaire de contact du site du SAV www.savf1.fr.nf. Et à bientôt pour le Grand Prix de Hongrie.
Ben voilà, c'était le Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring.
Ouais.
On va se retrouver donc au Hungaroring dans 15 jours, mon circuit préféré, pour un Grand Prix qui s'annonce chaud. Et peut-être
c'est passionnant.
Peut-être l'un des derniers d'ailleurs Grand Prix au Hungaroring.
Ouais. Oh là là, je vais le pleurer.
Ah bah ouais, tu vas le pleurer pour aller te consoler avec le Bulgaroring.
Le Bulgaroring.
Donc on vous donne rendez-vous dans 15 jours, on vous conseille de ne pas éviter notre blog www.savf1.fr.nf, aussi d'aller sur le
site... Non, même pas.
Sur le site de enzof1.com pour regarder les vieux dessins.
Hein. Ouais.
Ils sont tous en ligne, vous pouvez retrouver les vieux dessins d'Enzo, ça vous rappellera le bon vieux temps où Enzo faisait des dessins. Et puis voilà, on remercie Jérôme pour ses contributions régulières au blog. Et puis je vous remercie messieurs de cette nouvelle contribution à notre émission. Allez, salut.
Salut.
Bonne soirée, bonne nuit.
Pour 14 juillet.
Ouais. Service après-vente de la F1.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.